Service après-vente de la F1.
Bonsoir et bienvenue pour cette pénultième émission de la saison du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix du Brésil. Avant-dernière course, oui, mais chapitre final d'une saison 2009 pas comme les autres qui aura connu une des plus belles success stories de la discipline avec le sacre de Brown Grand Prix, 317 jours après l'annonce du départ de Honda, 226 jours après la création de l'équipe et 203 jours seulement depuis la première victoire de l'équipe. Une histoire un peu folle, comme si nous le concoctait la F1, et pour une fois, Bernie et la FIA n'y sont pas trop responsables. C'est aussi le sacre de Jenson Button, passé de gloire montante de la F1 à bon pour pousser des caddies en supermarché en quelques années, et qui nous prouve enfin en 2009 tout le talent qu'on lui supposait. Mais nous reviendrons aussi sur le reste du week-end qui nous aura offert des moments anthologiques comme seul Interlagos sait nous les offrir. Entre les particules d'eau, d'essence et de carbone, il fallait être bien protégé pour passer toutes les embûches du circuit pauliste. Vous retrouverez bien sûr toutes nos rubriques habituelles, des questions d'actu aux faits marquants du week-end en passant par vos classements préférés, le tout avec toujours autant d'objectivité et de sérieux. Mais avant de rentrer de plein pied dans cette émission, j'aimerais revenir sur quelque chose. Oui, car pour cette intro, j'aurais pu mettre un peu de musique, histoire de mettre de l'ambiance, avec un peu de bossa nova, de samba, ou bien mettre du Queen bien puissant avec son fameux We are the champions.
We are the champions!
Sur de bonnes circonstances. Non, au lieu de ça, et comme je suis un petit peu une enflure, je vous propose de plonger un peu dans le passé. Souvenez-vous, c'était l'émission de Chine, le troisième Grand Prix de la saison. Nous parlions de Vettel, quand soudain, Enzo prit la parole.
Je vais vous dire un truc, on est le 21 avril, la saison se termine le 1er novembre, mais je vais vous le dire, c'est lui le champion du monde 2009.
Ça vient que tu vas comme ça, toi.
Ouais. Et on en reparlera dans la je sais pas, 17e émission du SAV, 18e puis.
Bonjour Enzo! Bonjour Yannick!
C'est petit.
Ouais!
C'est très petit. Alors que j'ai failli mourir dans mon lit tellement j'étais malade hier. M'attaquer comme ça, je peux m'en remettre.
Oui, mais en Chine, t'étais pas malade.
Eh ben, je me demande si je couvais pas déjà la grippe.
Voilà. C'était il y a 6 mois.
Mais j'ai pas précisé quelle année.
Dis-nous, tu as gagné la Coupe du Monde l'an prochain.
Vas-y, engage-toi sur la France, tu risques rien.
Non, mais...
L'Irlande.
Bon, d'accord, voilà, ok. C'était un peu facile de miser sur Button aussi, hein, d'un autre côté.
Oui, voilà. En même temps, ça fait économiser un magnète.
C'est vrai.
Oui. Parce qu'il faut savoir que le magnète de Button est fait champion du monde et fait depuis au moins 6 mois.
Et qu'on n'a pas fait de magnète Vettel, Barrichello, Weber ou Raikkonen en échange. Hein. Il y en a qu'un, on a parié sur Button.
Donc, quelque part, dès le début... Voilà, on le savait.
Dès le début, moi je savais que ce serait Button qui serait champion.
Voilà.
C'est petit, Shinji. C'est petit, très petit.
Non, c'est bien, Shinji.
Alors.
Je me vengerai un jour avec tes chiffres inutiles.
Ah non, mais quand même, on a une introduction, le Shinji, à la Shinji avec plein de chiffres dedans.
Oui, vous avez remarqué, hein, des petits chiffres et tout. Et d'ailleurs, c'est le moment de passer à notre rubrique d'ouverture. Ou quoi,
non,
quoi,
on n'a même pas dit bonjour.
Ah bah
oui, d'abord, bonjour. Et en plus, vous allez quand même pas croire que je vais vous laisser comme ça deux émissions tranquilles pour faire vos trucs pépères et tout, et m'éclipser moi au second rôle quand même.
Tu fais quoi, une tennis là aujourd'hui?
Non, aujourd'hui j'ai rien là devant moi aujourd'hui.
Je croyais que tu voulais te reposer justement.
Oui mais non, j'en ai ras le bol, là c'est bon, ça suffit, là maintenant je dois reprendre les rênes. Ne serait-ce que pendant 2 minutes 20, je dois reprendre les rênes. J'aimerais moi aussi revenir sur quelque chose qui s'est passé dans le passé.
Non.
Souviens-toi, la semaine dernière, Shinji, tu as dit quelque chose qui a provoqué l'inspiration.
Oh non, oh mon Dieu, tu l'as faite.
Alors, j'ai pas fait celle que j'avais chantonnée, j'en ai fait une autre. J'ai pas repris Queen, mais j'ai repris Edith Piaf.
Oh là 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 là.
Attends, si tu savais la pluie qu'on a déjà eue aujourd'hui.
Ouais,
mais nous, c'est de la aussi. Pluie, nous, on habite, monsieur.
Oui, mais vous êtes habitués.
Donc, je rappelle quand même, pour remettre en contexte, la dernière fois, Shinji nous avait fait un drive-thru, je crois, c'est
ouais,
ça, Shinji?
Oui.
Sur Williams, qui disait tout le temps non. J'avais rempli en disant que c'était l'écurie qui dit non, d'accord, sur la chanson de Paul Naref.
Rien de rien.
Et j'ai essayé de faire sur la chanson de Paul Naref, mais malheureusement c'est un texte de Paul Naref, donc pas très riche, donc il y a pas grand chose à mettre. Et je me suis dit, faut que je prenne une autre chanson où il y a nom dedans. Et dans le répertoire français, à part Edith Piaf, il y a pas grand chose. Donc tout de suite, je m'excuse auprès des ayants droit d'Edith Piaf. Je m'excuse aussi auprès de nos auditeurs.
Tu te prends pour Marion Cotillard ou quoi?
Donc voilà, je vous présente le dernier titre du Môme.
Rien de rien. Non, elle ne vous cédera rien. Même le Kers rejeté, abandonné, tout ça lui est égal. Non, rien de rien. Non, elle ne vous cédera rien. Entêté, déterminé, redouté, prêt à tout rejeter. Quant au troisième baquet, elle s'y est opposée. Ferrari et Choubi n'ont plus qu'à se rhabiller. Pas de place non plus pour de nouvelles autos. Sauber est parti pour tout reprendre à zéro. Non, rien de rien. Non, elle ne vous cédera rien. Le budget plafonné, oublié, elle vous le fera payer. Non, rien de rien. Non, elle ne vous cédera rien. Surpasser les yeux rivés, elle veut rêver de sa gloire d'autrefois.
Merci Panam. Voilà.
Waouh.
Hein. Et comme une nouvelle ne vient jamais seule, il y a le clip de On a demandé à Nelson qui sera bientôt en ligne sur internet.
Waouh. C'est qu'il faut les prendre les petites pilules. Hein.
Mais je les prends, mais je prends même la double dose. C'est peut-être ça le problème.
C'est pas les bonnes alors.
On m'a dit tu prends la bleue. Je prends la bleue.
Ah non, non, c'est pas ça, la bleue.
Non, voilà, c'était juste mon piratage de l'émission pendant 2 minutes 20.
Ouais. Voilà. Mais on va plus rien te dire, hein, si à chaque fois...
Non, c'est vrai. Non, mais tu m'avais inspiré la dernière fois, donc ça méritait une chanson.
Donc maintenant qu'Yannick a eu son moment de gloire...
Ouais.
On va pouvoir reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Et commencer par ce que j'ai envie d'appeler cette semaine, le chiffre inutile de moi.
En toute modestie.
Ah non, on s'était dit on va lui donner l'émission comme ça. Ah non, le but. Ah, désolé. Ah non, mais regarde le Bordeaux. Non, c'est un but de Bordeaux, c'est bien. Excusez-moi.
Donc,
non, mais on se disait on va lui donner l'émission comme ça, il fera plus le chiffre. Et tant tu fais quand même.
Si.
Ah merde.
Bah,
il fait le chiffre inutile aujourd'hui.
Tu fais le chiffre inutile de moi, tel un linge long.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente le chiffre inutile de Shinji. Un chiffre inutile, mais qui peut vous éviter d'avoir l'air con en soirée.
Aujourd'hui, le Brésil, et le chiffre, c'est le chiffre 17.
C'est le 17e Grand Prix? Ah bah non.
Non, c'est pas ça.
Ça a aucun rapport avec la F1, la vie est répétée.
Il y a 17 provinces, il y a 17 cantons, il y a 17 villes à Sao Paulo, il y a...
Alors... Ça n'est pas quelque chose, c'est pas 17 choses dans le Brésil. C'est le Brésil qui fait partie de ces 17 choses.
Des 17 pays où on parle portugais.
Non.
J'ai senti un blanc. Je me suis dit, ça se trouve, c'est ça, on lui a foutu son chiffre en l'air.
J'en suis loin ou pas?
Oui, tu es loin.
17. C'est pas le parallèle du traité de Tordesillas, par hasard?
Non, c'est pas historique.
Pas historique. Donc, c'est toujours d'actualité, le 17?
Oui, c'est toujours d'actualité.
Et c'est depuis toujours ou depuis...
Oui, on peut dire que c'est depuis toujours. Enfin, la dénomination de ces 17 n'est pas depuis toujours, mais ce à quoi ça correspond, oui, on peut dire que c'est depuis toujours.
J'ai rien compris.
C'est pas grave. C'est un des 17 pays de l'Amérique du Sud?
Non.
De l'Association des Nations d'Amérique du Sud, d'Amérique Latine
Non, c'est pas à l'échelle de l'Amérique Latine, c'est à l'échelle du monde entier.
Ah. C'est, on est bien d'accord, c'est pas quelque
c'est
chose...
C'est le 17e plus gros pays. Bon, en superficie.
Non, je crois même qu'il doit être encore mieux classé que ça.
Oui, je pense aussi.
C'est sportif. Enfin,
c'est pas sportif. Disons que on a désigné 17 pays selon une définition. Et le Brésil en fait partie.
Bah, c'est l'un des 17 pays en voie de, enfin, pas en voie de développement, mais
c'est pas économique non plus.
Et c'est lié à la population?
Ça n'est pas lié à la population humaine.
Ah, humaine. Des pandas.
Ça rentre en partie dedans.
Ça fait partie des zones protégées pour les espèces menacées ou une connerie comme ça? Ou une connerie comme ça, excusez-moi.
Tu touches au thème.
C'est l'un des 17...
Ça n'implique pas que les animaux, mais oui, on approche du thème.
Le patrimoine de l'humanité ou voilà un des pays, la forêt amazonienne, voilà un des trucs qu'il faut protéger quoi.
C'est l'un des seuls pays qui est classé au patrimoine, l'un des 17 seuls pays qui est classé au patrimoine
Ah, j'ai envie de vous de dire
ah bah oui.
Que vous avez bon.
Ah non, faut qu'on trouve, non, faut qu'on trouve.
Ah bah attends, on a trouvé. C'est un des pays où il y a le plus d'espèces, le 17 dans les voilà.
Voilà, c'est ça.
Ah.
Recouvert en partie par le plus grand bassin forestier de la planète, l'Amazonie, le Brésil est l'un des pays les plus riches du monde en termes de biodiversité. Il fait partie d'ailleurs des 17 pays, on appelle ça des pays mégadivers. Les pays mégadivers sont un groupe de pays qui détiennent la majorité des espèces et sont donc considérés comme les plus riches de la planète en matière de diversité biologique. Et c'est donc selon le Centre de Surveillance de la Conservation de la Nature de l'ONU. Alors j'ai la liste des 17 pays.
Ouais, mais j'ai une objection là.
Oui.
Parce qu'il faut bien que je fasse mon choix pour qu'on puisse me le ressortir dans 3 mois.
Non.
Est-ce que c'est le 17e? Parce que ça pourrait être dans les 15 pays quoi.
Ah, c'est l'un des 17 pays.
C'est pas, il n'y a pas de classement.
Qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit 17 ou 15 ou...
C'est l'ONU qui a dit voilà ces 17 pays sont
et
les 17 pays.
Et pourquoi il n'y en a pas 18?
Ça, c'est l'ONU.
C'est l'ONU qui a décidé ses critères.
C'est pire que la FIA, l'ONU.
Bah oui.
Alors, parmi les pays, il y a l'Afrique du Sud, l'Australie, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, les États-Unis, l'Inde, l'Indonésie, Madagascar, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique du Congo, la République populaire de Chine et le Venezuela.
Ouais, mais ça, c'est un chiffre inutile que t'aurais pu nous... Alors, je vais le répéter. T'aurais pu nous citer pour l'Australie, pour la Chine, pour la Malaisie...
et la Papouasie.
Pas dire... Non, il n'y a pas de Grand Prix là-bas.
Bientôt. Donc,
je veux pas dire, mais c'est un peu... Il est pipeau, ton chiffre.
Ouais, mais c'est quand même le plus gros pays de tout cela.
Ouais, tu vois... Ouais.
Mais non, mais te défends pas, Non, mais j'ai dit, quand on est le patron de l'émission, c'est nous qui dictons. Alors, envoie-le chier, merde.
Je vais l'envoyer chier en lui balançant plein de chiffres. Il y a 600 espèces de mammifères qui sont présentes au Brésil. Il y a 1772 espèces connues d'oiseaux. 40 espèces de tortues, 120 espèces de lézards, 230 espèces de serpents, 5 espèces d'alligators, 330 espèces d'amphibiens, 1500 espèces de poissons d'eau douce.
Et mec qui s'y intéresse, Shinji.
Ah.
Bah non, l'ONU aussi.
Il y a plus de 100 000 invertébrés, parmi lesquels plus de 70 000 insectes. La forêt amazonienne renferme la plus grande concentration d'organismes biologiques au monde. Personne ne sait réellement combien on y trouve d'espèces,
mais les
scientifiques estiment qu'elles représentent de 15 à 30% de l'ensemble des espèces connues dans le monde. Donc tu vois, quand même, parmi les 17, le Brésil, c'est pas rien.
Bon, ça va. Eh ben, moi aussi, j'ai un chiffre inutile.
Ah non.
C'est même pas un chiffre inutile. C'est pas un chiffre, c'est une combinaison. Et j'ai la combinaison magique du Brésil. Alors, l'une des combinaisons, c'est Brésil, justement. Et l'une des parties du Brésil. Et l'autre partie, c'est 5.
J'ai pas compris.
Donc, avec la combinaison magique, c'est Brésil.
J'ai des vapeurs de saké qui me font un truc au cerveau, mais j'ai pas compris.
Je disais, la combinaison magique, c'est Brésil et 5.
Et c'est en lien avec la F1?
Ah, non. Bien sûr, moi oui. Ça aurait pu être golf, mais c'est la F1.
5.
Ah, c'est le 5e Brésilien qui joue le titre au Brésil, non?
Je sais pas.
La 5e fois que le titre se joue au Brésil?
Je sais pas. Mais ça, toi, tu nous as posé une question historique là-dessus.
Ouais, bah,
coup, eh ben, je vais vous dire pourquoi.
Si je me rappelais, moi, de mes questions, n'importe quoi.
Ouais.
Cette année, en 2009, Button est devenu champion du monde au Brésil grâce à sa 5e place. L'an dernier, en 2008, rappelez-vous, Hamilton est devenu champion du monde du Brésil grâce à sa 5e place également. En 2007, Kimi est devenu champion du monde avec la 1ère place. Et Hamilton a fini 7e au Brésil. Ouais. Mais si il avait fini 5e, il aurait été champion du monde.
Waouh. C'est le chiffre utile d'Enzo qui est valable seulement si on fait des calculs mathématiques de problématiques. Waouh. Je défends mon pote, je suis désolé.
Non, j'ai trouvé ça marrant.
Non, mais c'est vrai que c'est 3 fois de suite en plus.
Voilà. Bah, sauf qu'Hamilton, lui, il a pas été champion du monde.
Mais c'est vrai qu'il aurait pu.
Ah, et aussi, il avait fini 5e.
Donc, c'est vrai, c'est une belle combinaison.
Voilà.
On passe à l'actu?
Bah, écoute, c'est toi le patron.
Alors. Vous savez, c'est des trucs qu'on appelle les transitions, hein. Donc, voilà. Donc,
une ah ouais, mais attends, on n'est pas habitué aux transitions avec Yannick. Alors,
attends, hein. Il va pas nous expliquer. Attends, c'est toi le puceau en matière d'animation, là.
Non, c'est toi le novice, hein. C'est toi le bleu, hein.
Donc, bah, l'actu principale, bien évidemment, c'est les titres. Celui de Brown, celui de Button, bah oui.
Et celui qui n'a pas eu Vettel.
Celui qui n'a pas eu Vettel.
Ni Barrichello.
Oui, mais c'est surtout Vettel qu'elle t'avait parié.
Bah, donc, vos premières impressions, faire déjà un premier petit retour sur cette saison.
Bah, moi,
Button, j'y ai toujours cru. Moi, franchement, dès le début, j'étais sûr qu'il allait être champion du monde. Ouais.
Dès les deux premiers
surtout rangs. Surtout en Chine.
Surtout en Chine, ouais.
Non, mais d'ailleurs, j'ai lu un truc très drôle, c'est comment ça s'appelle pour justement dire que nous, on y a tous cru dès le départ. Le patron de Virgin, comment ça s'appelle
Richard Branson.
Richard Branson a révélé récemment dans une interview que il aimait sponsoriser les équipes qui ne gagnent pas.
Ah.
Et donc, il avait sponsorisé Brown en étant étonné qu'il gagne. Bien sûr, c'est logique. Donc en fait,
bien sûr.
Il est presque déçu que Brown ait été titré.
Il est surtout très con.
Oui, bah oui. Ouais.
Mais c'est quand même un champion. Enfin, on va pas dire bizarre, mais c'est vrai que le profil de la saison de Button, c'est pas banal.
C'est clair.
Oui, mais alors c'est ça justement. C'est un truc qui m'a un peu énervé moi. C'est
Il le mérite. Hein,
depuis.
Ça,
depuis dimanche, c'est sur les forums, sur les blogs, etc. Tout le monde n'arrête pas de dire Button n'a pas de panache, il a été petit bras. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut quand même rappeler que l'année dernière, Hamilton, il est champion en ne finissant que 5e de la course. Oui. En plus, en ayant un gros coup de cul vers la fin, puisque c'est Glock, hein, directement, par son mauvais choix de pneus, qui lui donne le titre. Et puis, il faut aussi arrêter de penser qu'en Formule 1, il n'y a que des mecs qui ont du panache. Il y a aussi des mecs qui savent gérer leur course. Là, Button, il a géré toute sa saison, il a géré toute sa course.
Il fait quand même un début de saison incroyable. 6 victoires sur 7 au début.
Il a gagné
6
courses cette saison.
5 et demi.
Non, 6.
Ouais, bah 6.
À noter quand même que dans l'histoire, si on le compare à d'autres champions britanniques, il a fait autant que James Hunt en 76, qui avait fait 6 victoires la saison de son titre.
Et moins de courses.
Il y avait moins de courses, ouais. Mais c'était quand même 6 victoires, faut quand même aller les chercher, ces 6 victoires. Et autant que Stewart en 69 et 71.
6 victoires sur 16 pour l'instant, c'est quand même pas mal, hein.
Voilà, il a quand même un très bon ratio, personne n'a été battre. Il était titré au nombre de victoires depuis déjà 2 Grands Prix. Donc voilà, alors c'est sûr, il n'a pas été super flamboyant dans la
Il a chopé des points sur quasiment toutes les courses, à part en Belgique.
Ouais.
Ouais. Non, il a fait comme Alonso en 2005, hein.
Oui. Départ tonitruant, et puis après, tu gères.
2006, pardon.
Et puis il a fait tout simplement ce que n'a pas
2005.
Su faire. Ce que n'a 2005 pas su faire.
Aussi.
il a su faire ce qu'on n'a pas su faire Lewis Hamilton en, même si lui avait une plus confortable avance, mais Hamilton en 2007, sa première saison, il est passé à côté du titre tout seul. Là, je pense que Button, il a été, c'est justement le fruit de l'expérience, il s'est dit, ne prends pas trop de risques, la voiture est moins bonne, et bah, cherche à faire des petits résultats. Et même sur les courses où il n'a pas été bon, où il a fini 7e, 8e, 6e, et bah, il s'est quand même défoncé dans la deuxième partie de course pour aller chercher la place. Et ça, il l'a fait. Et alors, c'est sûr que c'est pas mirobolant au point de vue des résultats, mais ça m'agace depuis 3 jours qu'on lise sur différents blogs que Button ne mérite pas, qu'on aurait préféré Vettel. Vettel n'a pas été panache toute l'année.
Et puis, sur Button, enfin, on parle de panache, mais il y a, comme par exemple cet été, il n'y a pas que le fait d'avoir fait l'épicier. Il y a eu des grands prix très frais où bah c'est pas que lui voulait faire l'épicier, c'est que vraiment ça marchait pas. Faut pas l'oublier aussi.
Tout à fait.
Quant à Brown, alors il rentre entre guillemets dans l'histoire pour être c'est la première équipe à gagner le titre dès sa première année, même si on sait que bon, c'est pas oui. Non plus une nouvelle équipe Brown.
Voilà.
Vous croyez qu'il y a eu beaucoup de suicides chez Honda dimanche?
Bon, non, parce qu'il paraît qu'ils sont plutôt contents. Puis même pour eux, enfin, ouais, implicitement, même si c'est pas de la pub, mais tout le monde, tous les fans de Formule 1 savent très bien d'où vient la voiture.
Puis faut quand même.
C'est très bien aussi à qui ils le doivent ce résultat. C'est bien sûr au résultat des pilotes et de l'écurie actuelle, mais ils peuvent n'empêcher de dire merci à Honda qui était l'ancien propriétaire.
Ouais. Faut les saluer pour aussi avoir facilité justement cette transition. Entre ouais, Honda oui. Et Brown.
Et surtout chapeau bas à Rod Brown. Hein.
Ah oui, ça.
Je sais pas, j'ai pas trop suivi les déclarations de Brown ces derniers temps, mais ça m'étonnerait pas que Brown ait un message pour Honda en leur disant on remercie aussi, on tient aussi à joindre à l'effort collectif Honda qui a quand même donné de l'argent à l'écurie pour permettre de vivre au début de la saison, etc. Donc.
Puis à noter que c'est aussi un entre guillemets, une moitié de titre constructeur pour Mercedes.
Ouais.
Et ça aussi, ça faisait longtemps que ça leur était pas arrivé. Ça faisait, bah, pour le moteur.
Ah bah, Mercedes, c'est leur premier titre constructeur. C'est leur premier titre constructeur
depuis 10 ans.
Ah, c'est énorme, moi.
Alors.
Oh, c'est vrai que, bah, pour nous, ce qui est énorme, c'est 1 an.
Ouais, voilà.
On croise les doigts en disant ça. Hein.
Ouais.
T'as pas connu une période de 20 ans sans.
Ah non, moi j'ai connu que des périodes de 1 an, moi. Pour le moment, ça va.
Pendant qu'on parle
méfie-toi
de.
Méfie-toi alors.
Ouais.
Mais non, il y a Fernando qui arrive.
Bah justement, tiens, pendant qu'on parle de Ferrari et de Fernando, Yannick, ton actu.
Oui, alors moi mon actu, moi je voulais revenir sur l'ambiance chaleureuse qui est en train d'apparaître entre Felipe Massa et Fernando Alonso.
Et même entre Massa et Raikkonen, on n'a jamais vu ça.
Ce préambule qui doit se faire dire à Alonso, mais pourquoi dès que je vais dans une grande équipe, il y en a forcément un à côté qui m'en veut à mort. On a Felipe Massa. Qui n'est pas avare depuis le début de l'automne, enfin depuis le mois de septembre, qui n'est pas avare de déclarations en tout genre, qui avait déjà dit qu'on lui avait volé son titre de champion du monde l'année dernière, qui s'est déjà un peu pris la tête avec Hamilton, et là Massa est passé à l'attaque sur Fernando Alonso, son nouveau coéquipier de l'année prochaine.
Oui, faut pas l'oublier.
Son futur,
ouais.
Hein, et donc,
maintenant qu'il est pas là, il a le droit de lui dire des saloperies.
Voilà,
c'est un adversaire.
C'est justement ça qui est intéressant. Massa a dit dans la presse, il a déclaré que, tout comme Nelson Piquet Senior, il ne comprenait pas qu'un pilote ne puisse pas être au courant de cette tricherie-là et que donc, selon lui, Fernando Alonso était complètement mouillé dans l'histoire. Fernando Alonso lui a répondu que non, qu'il n'était pas impliqué, etc. Bon. Mais ce qui est le plus intéressant dans ce qui s'est passé dans leur relation, c'est que quelques heures, même quelques jours après que Massa ait fait ses déclarations dans la presse, il a reculé. Mais il n'a pas reculé n'importe où. Et c'est là où le signe est fort. Il a reculé sur le site officiel de la Scuderia Ferrari. Donc, on peut sans doute imaginer que ayant fait ses propos, Stefano Domenicali, dans son petit bureau à Maranello, a lu l'interview en disant « Mamma mia, que passa ?» Il a pris le téléphone, il a appelé Madame Massa, il lui a dit « Écoutez, Madame Massa, est-ce que vous pouvez me passer Felipe ?» Et là, Domenicali dit « Attention, tu t'appuies sur Alonso !»
Mais Massa...
on a Massa, qui, dans sa réaction, dit « Oui, mais non, mais j'ai juste exprimé un sentiment personnel, j'ai jamais accusé, etc. » Donc, il essaye de se sortir. Et donc, on sent quand même qu'il y a une hiérarchie qui est en train de s'installer chez Ferrari, où on est en train de dire « Attention, Massa, tu dis rien sur Alonso. »
Mais justement, est-ce que Massa n'est-il pas surtout en train de marquer son territoire ?
Bien sûr qu'il marque son territoire. Ah.
Parce que bon, il pourrait toujours faire pipi aux quatre coins du paddock, mais bon, ça serait beaucoup plus moins hygiénique.
Il l'a déjà fait à Maranello, ça.
Oui, il l'a fait ce week-end.
Voilà.
Alors c'est là où on a vu la réaction d'Alonso. Hein. Ils se sont même vus. Alors ça a été la grande photo du week-end. Hein. Ouais. Alonso et Massa qui se serrent la main. Faut quand même rappeler qu'il y a un an, Alonso avait dit que lui, il espérait, il ferait tout pour que Massa gagne le championnat du monde. Et qu'on se rappelle juste qu'il y a à peine deux semaines, Massa a dit que Renault lui avait volé le championnat du monde. C'est un peu drôle, dans leur relation, je pense qu'il va y avoir des discussions devant la machine à café à Maranello entre deux essais qui va être assez drôle.
L'ambiance va être super bonne l'an prochain. Super.
C'est clair.
Faut qu'il marque son territoire, hein. Alonso arrive pas comme un Messi, mais presque.
Oui, quand oui. Même, oui.
Enfin, le Messi d'une partie des fans.
Ouais. Mais il est quand même là, voilà, pour gagner des titres avec Ferrari, faut bien le dire.
Oui, voilà.
Ça aurait pas pris Alonso, sinon.
Pourquoi t'es pas content
qu'il vienne?
Mais non, mais moi, c'est-à-dire que je suis dans une situation où, moi, avant que Raikkonen arrive, j'avais déjà commencé à me passionner pour Raikkonen. Et là, cette saison, j'ai commencé à me passionner pour Vettel. Et moi, c'est Vettel que je veux, c'est Ferrari. Alonso, ça restera toujours dans ma tête. Le mec qui a détrôné, enfin, qui a succédé à Michael Schumacher. Le mec qui, lors de la dernière saison de Michael, a privé Schumacher du titre. Voilà, donc ça restera pour moi le dernier grand rival de Michael et je lui pardonnerai jamais. Donc il va falloir qu'il gagne mon respect.
Oh, respect alors.
Ah, l'année prochaine, ah, non mais sérieux, l'année prochaine, s'il fait des résultats, je vais le soutenir. Mais c'est vrai que cette année, moi, je me trouve un peu dans la merde, quoi. J'ai le choix entre Massa et Alonso. Shinji, c'est que Massa, c'est pas ma tasse de thé. Et Alonso, bon, j'aime mais... beaucoup le pilote, mais le mec, je suis pas très fan.
Soyons complètement honnêtes. Qu'est-ce qu'on s'était dit, je veux dire, qu'en 2008, on s'est tous mis derrière Massa. Alors que Kimi était champion du monde et pour nous c'était lui le Messi quoi. Et pourtant on a soutenu un Massa quand il s'est battu jusqu'au bout quoi. Donc je veux dire il y aura pas de problème.
Au sein de la Scuderia je soutiendrai toujours les pilotes Ferrari mais moi est-ce que je vais soutenir autant Ferrari, est-ce que je vais autant vibrer à une victoire d'Alonso que j'ai pu vibrer à une victoire de Schumacher et à une victoire de Raikkonen? Pour le moment c'est non.
Oui.
Mais non, je vais vibrer en temps. Non parce que par exemple, moi honnêtement, sur des victoires Massa et des victoires Raikkonen, j'avais pas le même ressentiment. Et là, je pense que j'aurais pas le même sentiment à une victoire d'Alonso et puis pour moi Je suis pas loin de partager l'opinion d'Alonso et de Piquet Senior quant à l'implication de Fernando Alonso.
Oh
et ouais non mais moi je pense que c'est je pense pas qu'il ait impliqué qu'il a donné l'idée mais je pense que c'est impossible qu'il n'était pas au courant. Et ensuite on connaît sa fidélité aux équipes et j'aimerais savoir si c'est un vrai fidèle à Ferrari.
Ah bah sa fidélité à Renault.
Oui, ah, il est quand même parti en pleine gloire de chez Renault pour aller chez McLaren.
Non, il est revenu, d'accord.
Il est revenu en faisant il a dit... les enchères avec Toyota. Donc,
rappelle-toi à l'époque, il a dit Ferrari ne me fait pas rêver. Hein.
Ouais, voilà.
Il a si dit, tu t'en rappelles pas, je te le dis.
Mais...
Hein,
non, non, mais je m'en rappelle.
À l'époque, il a dit oui.
C'est justement ça.
Quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé de rouler chez McLaren.
Oui, et puis il avait même dit que lui, en 2000, quand il était arrivé chez McLaren, il disait si je gagne pas chez McLaren, ce que je souhaite, c'est que ce soit un pilote Renault qui gagne et pas un pilote Ferrari. Donc, c'est ça. J'attends de voir comment il va se comporter au sein de l'écurie.
Alonso, ça promet.
Alonso, un homme à l'enfance troublée. À la fois fan de McLaren et de Ferrari.
Ouais.
Un peu comme moi.
Ah non, mais toi, c'est un coup Vettel, un coup Vettel, un coup Vettel, et puis à la fin Button.
Non, non, j'étais pour Vettel. Non, Barrichello.
C'est vrai que déjà pendant l'été, t'avais commencé un petit peu à basculer vers Barrichello.
Ça aurait été une belle histoire.
Les trois possibilités sont une belle histoire.
Sincèrement, je vais te dire ce que je pense. Vettel, il n'y a aucun doute, il le sera champion du monde.
Oui. Oh oui, sans doute, oui.
On est tous d'accord là-dessus. Button, allez, il reste chez Brown. l'an prochain, pourquoi pas.
Barrichello, pourquoi pas, ouais.
Barrichello, c'était sa dernière chance, soyons honnêtes.
Oui, mais
il a plus mais, aucune
mais
chance
en dehors du fait que ce soit la dernière chance, pour les trois, c'était une belle histoire. Pour Vettel, ça aurait été une belle histoire, ça aurait été le plus jeune, et puis
ouais.
Ça aurait été vraiment le...
Il aurait battu Alonso ou pas?
Il aurait battu Hamilton. Oui. Hamilton, qui est le plus jeune champion, il l'aurait battu.
Ah oui, c'est Hamilton maintenant, d'accord.
Et
l'an non, prochain aussi ou pas?
Hein?
Et l'an prochain aussi ou pas?
Faudrait vérifier, j'ai un doute.
Mais si c'est l'an prochain, ça doit être grand maximum.
Oui, c'est sans doute l'an prochain. C'est un peu comme Hamilton, hein. C'était sa dernière chance l'an dernier, et puis cette année, il pouvait pas être champion.
Et voici, oui.
Alors voilà, on se comprend.
Alors Enzo, de quoi voulais-tu nous parler?
Alors moi, je voulais vous parler de l'intérêt que tout le monde a pour le moteur Cosworth.
Ouais. C'est vrai que c'est bizarre, franchement, c'est intéressant.
Non, c'est pas du tout bizarre.
Ah non, en fait, c'est très fondé.
On sait que les trois nouvelles écuries que sont USF1, Manor Grand Prix et Campos Meta seront équipées toutes les trois des moteurs Cosworth. On sait que Lotus également. Et par contre, ce qu'on apprend, c'est que Williams, qu'on avait pressenti pendant longtemps pour aller vers Renault, donc ils ont quitté Toyota, maintenant c'est officiel, pour un moteur. On pensait qu'ils allaient se tourner vers un moteur Renault. Il semblerait que ce serait plutôt vers Cosworth qui se tourne. Et la même chose pour Red Bull. Red Bull voulait Mercedes. McLaren a mis son droit de veto qu'il possède, donc Red Bull pas de Mercedes. Il semble que les Red Bull hésitent maintenant entre le Renault et Cosworth. Donc la question est, pourquoi? On pourrait se demander pourquoi. Et en fait, il y a une grande explication derrière tout ça, c'est qu'avec le gel des moteurs, toutes les écuries, aucune écurie a le droit de concevoir un nouveau moteur. Sauf que là, Cosworth, vu qu'ils arrivent, ils construisent un nouveau moteur avec les nouvelles technologies et ça a progressé en 4 ans quand même depuis le temps que les moteurs sont fichés, donc ils le mettent à jour. Et il y a pas mal d'observateurs qui estiment que ce sera sans doute un avantage d'avoir un moteur Cosworth de nouvelle génération, on va dire, donc plus récent par rapport à des Mercedes, des Ferrari ou même des Renault. Donc c'est un peu rigolo ce que voulait la FIA en fait derrière les nouvelles équipes qui venaient, c'est à savoir pousser pour avoir un moteur unique où ça va se trouver être peut-être un réel avantage pour les écuries.
Ouais.
Après, il y a la question de la fiabilité. Est-ce qu'ils vont tout de suite trouver une bonne fiabilité? C'est plus la question en suspens. Et puis,
je pense qu'il peut ce qui peut leur coûter cher, c'est surtout le fait que pour le moment aucune écurie ne se soit alignée encore avec le moteur, et donc ils vont avoir peu de temps pour vérifier si le moteur marche bien et tout. Donc ça reste quand même un pari risqué.
Est-ce qu'ils vont être capables de fournir autant d'écuries? Parce que là, ça en fait quand même potentiellement au maximum, ça on pourrait en faire 6. Ça pourrait en faire 6, donc c'est quand même énorme, quoi. C'est ce que faisait Ford dans la grande époque,
Ça fait 48 moteurs, ce sera toujours 8 moteurs l'an prochain.
Ça fait 96, puisqu'il y a 2 moteurs par équipe.
Oui, exact. Donc, 96 moteurs.
Mais en même temps, ils font que ça. Ils font que des
moteurs. Oui, c'est vrai. Ils font que ça.
C'est ça la question. C'est est-ce que Cosworth va aussi faire un peu à l'image de ce que fait Mercedes, vendre un bloc moteur plus boîte plus le tout, ou est-ce qu'ils vont juste vendre le bloc moteur? Dans ce cas-là, Red Bull aurait plutôt intérêt à rester avec Renault, qui
puisqu'il y aura tout l'ensemble.
Un arrière.
Et pareil, avec 6 équipes, est-ce qu'il pourrait y avoir des... Enfin, il y aura des équipes déléguées, mais quand tu dois fournir 6 équipes, c'est autant de personnes en plus.
Tout à fait.
Ouais.
Ça en fait du personnel, quoi.
Mais alors, on sait que ce qui a fait basculer la balance ces dernières semaines, c'est le fait que des anciens ingénieurs chefs de chez Mercedes soient allés chez Cosworth.
Ouais.
Donc ça fait dire à beaucoup d'équipes que voilà, Cosworth se contentait pas de voir petit, ils avaient de vraies ambitions et qu'ils allaient chercher là où il y a le meilleur en ce moment, c'est chez Mercedes.
Oh bah oui, forcément.
Donc voilà, ça c'était mon actu avec l'explication qui allait avec. Et je pense qu'on en saura plus sur les motoristes, parce qu'en ce moment c'est
très calme, tout ce qui est 2010 et tout ça, moteur, transfert.
On s'attendait vraiment à ce que le transfert d'Alonso débloque le marché, puis en fait non.
À part Kubica, on attend.
Les gens ont tellement attendu le transfert d'Alonso que quand ils sont arrivés, bah, quand le transfert s'est vraiment fait, bah, ils se sont retrouvés à se dire, bah, en fait, on a toujours personne en vue.
Oui, celui qui, j'ai l'impression, moi, j'ai lu les dernières nouvelles, on dit maintenant que Barrichello pourrait rester chez Brown, que Hetfeld est intéressé par McLaren, McLaren, pardon, était intéressé par Hetfeld. On parle de, bah, chez Renault, il y a plusieurs pistes, hein, il y a Bruno Senna qui veut faire des essais, on parle de Montagny, celui qui en ce moment, il y en a deux que je chante pas très bien en ce moment. C'est moins grave à mon sens, c'est Timo Glock, parce que j'ai l'impression qu'il risque d'être un peu oublié. Ouais. Et puis, si Rubens reste chez Brown, c'est Nico Rosberg. Ouais. Alors il restera sans doute une place chez Williams.
Mais est-ce qu'il restera en ayant le même statut?
Ouais.
Ou est-ce que Williams ira pas chercher un autre pilote en lui donnant plutôt un statut préférable?
Ce qui est étonnant, c'est qu'actuellement, on a finalement les seules certitudes, en tout cas les grosses rumeurs qu'on avait, c'était Alonso et Kubica.
Ouais.
On les a eues, et là, bah, pour l'instant, 2010, c'est gros point d'interrogation.
Ah. Mais c'est ça, je pense, c'est justement le fait qu'il y ait un gros vide en ce moment au niveau des transferts. Et les rumeurs se multiplient, on fantasme de plus en plus. Mmh. Et puis je pense aussi que toutes les écuries se disent, attendent d'abord de voir quel sera véritablement l'échiquier. On a les nouvelles équipes qui ont toujours rien présenté, on n'a toujours pas de nouvelles des équipes, ne serait-ce que des dirigeants, etc. C'est toujours un peu flou.
Ouais.
Toutes les écuries attendent de voir un peu vraiment le marché des transferts se structurer. Et aujourd'hui, le marché des transferts, il y a rien de structuré.
Il n'y a rien.
L'une des phrases qui ressort le plus en ce moment pour des transferts dans toutes les équipes, c'est on a des contacts avec tout le monde.
McLaren
dit,
ouais,
on discute avec tout le monde, même avec Kovalainen alors qu'on veut s'en débarrasser. Renault dit on a des contacts avec tout le monde. Toyota dit on a des contacts avec tout le monde. Mm. Et c'est très ouvert. Je pense qu'on aura une saison des transferts qui va se prolonger. Donc celui qui va gagner le concours pronostic 2010, il n'est pas prêt à recevoir son cadeau. D'ailleurs, je sais ce que ce sera le cadeau. Je peux vous l'annoncer.
Bah, annonce-le nous.
Ce sera 60 ans de Formule 1 de le dernier livre de Jean-Louis Moncey.
Waouh.
Mais j'ai encore le temps d'y jouer, non?
Ah non, trop tard, c'est fini.
Ah bon?
Et c'est Shinji qui mène.
Alors sinon, j'avais une petite actu 2010 qui concerne l'aéro des voitures. Parce que pour l'instant, on sait que les voitures vont peu évoluer l'an prochain. À part peut-être un peu à l'arrière, elle devrait prendre un petit peu de bide.
Un peu bide pour le réservoir.
Pour le réservoir. Voilà. Mais sinon, globalement, c'est vrai que les voitures 2010, ça va être des évolutions de 2009. Et parmi les rares choses qui devraient peut-être bouger, il est question d'interdire les fameuses flasques, les flasques de roue.
Oui. Oui.
Hein, qui, donc certaines sont jolies, d'autres sont jaunes fluo. Merci, Brown.
Bah, c'est joli, jaune fluo.
Ouais.
Ouais.
C'est toujours mieux que les flasques de roue qui débordent de la roue.
Ah, ça, c'est moche. C'est vrai, ça, c'est moche.
Ah, en plus, c'est dangereux.
Bah, c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'il les enlève.
Bah, je crois que c'est Alonso qui avait été obligé d'abandonner parce qu'il perdait sa flasque.
Ouais. Et puis, c'est vrai qu'en plus, là, vu que les ravitaillements de pneus vont être extrêmement importants l'an prochain.
Ouais.
C'est peut-être pour éviter les risques.
Vous allez voir un ravitaillement en 4 secondes, ce que c'est.
Puis c'est peut-être aussi pour éviter les petites combines aéro au niveau des flasques, parce que ça sert pas qu'à refroidir les pneus.
Absolument.
Il y aura bientôt des doubles flasques. À double effet.
Ne dis pas ça, ne dis pas ça, si un ingénieur de F1 t'écoute.
Non, il n'y a aucun risque.
Mais non, jamais. Quelqu'un est capable d'inventer un truc pareil.
Mais vous savez, tiens, d'ailleurs, c'est sur la boutade, hein, je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais en 1993, c'est la 93, je dis bien, l'année où Prost a eu son année sabbatique, le premier Grand Prix avait lieu en 92, il était encore chez Ferrari.
Non, 93, c'est l'année de Monza.
92, Montsel. Oui, t'as raison, 92, autant pour
moi. Je savais.
Autant pour moi. En 92, donc, le premier Grand Prix avait lieu à Kyalami en Afrique du Sud. Et c'est la première année où on a vu apparaître chez McLaren, les petits, les déflecteurs, qui sont à l'avant de la voiture. Vous voyez de quoi je parle là, hein, du moins qui sont entre la roue et le pilote, on va dire, hein, les petits déflecteurs pour canaliser l'air au niveau des pontons. Et initialement, c'était un fan de F1 qui avait envoyé cette idée à Ligier à l'époque. Et Ligier avait pas répondu, on n'avait rien fait. Du coup, il avait envoyé l'idée à McLaren et McLaren a sorti au premier Grand Prix.
Allez.
Voilà.
Ah donc j'ai mes chances.
Donc voilà, en 2010, les voitures ont un petit peu plus de bide et on devrait peut-être voir les jantes. Parce que ça s'est généralisé très rapidement. Les premiers, je crois que c'est Ferrari. À l'époque, c'était que des flasques à l'avant. C'est 2007 ou 2008, je sais pas. Je sais pas si c'est apparu en début de saison ou en courte saison précédente.
C'est apparu en courte saison avec Ferrari.
Ouais.
Donc, c'est Ferrari qui les a introduits.
À l'avant, puis à l'arrière.
Voilà.
Et depuis 2 ans, à peu près, on en voit sur toutes les voitures.
Il faut expliquer que l'intérêt, c'est que ça, au niveau de la jante, il y a une dépression qui est formée par le creux.
Par le creux, voilà.
Ça évite les dépressions, donc ça permet de fluidifier. Ça avait été pris par Ferrari comme solution pour fluidifier l'écoulement de l'air autour du pneu et d'éviter le freinage. Nécessairement, l'air qui rentre dans les roues ralentit légèrement la voiture.
Donc, voilà, c'était pour l'actu. Enfin, les actus sérieuses. Puisqu'on a, hein. Parce qu'on gueule souvent sur mon chiffre. Mais il y a quand même cette petite actu à la con, hein. Et puis d'ailleurs, il y a que Yannick, on sait pas où est-ce qu'il va chercher ses trucs.
En plus, cette semaine, vous êtes gâtés.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actu qui passe inaperçue. Youhou! L'actu! Où es-tu?
Alors, ton actu, elle est où?
Alors, elle n'a pas non plus.
Mais je vous... Non, non, la question historique, elle est pas prête, mais la question actuelle, elle est bétonnée depuis 4 jours. Vous connaissez la règle, pas de Google, pas d'Internet, rien. Hein, je vous fais confiance. Ah, oui. Ma question, une nouvelle fois, est toute simple, elle tient en quelques mots. Quelle raison les Gravios d'Afiel ont-ils pu se réjouir ce week-end?
C'est Gravios plus loin ou c'est Gravios?
Je ne te donnerai pas d'informations.
Gravio, c'est un rapport avec le gravier?
Non.
C'est un groupe de supporters de foot?
L'autre, il est allé sur Google. Ah non. Oh. Arrête.
Absolument pas. Ah, je te jure que non.
Alors oui, c'est un groupe de supporters de foot. On est au Brésil, la nation du foot.
Ah oui, bah, c'est pour ça que je dis ça. Parce qu'ils ont joué contre l'équipe de foot, de pilotes, je veux dire.
Ouais.
Et ils les ont battus?
Non.
Ils ont joué un match?
Leur club, oui, mais comme d'habitude, comme Lyon ou Bordeaux, qui actuellement mènent 2-1 face au Bayern Munich.
Et bah, ils se sont déplacés au Grand Prix?
Non.
Donc c'est la F1 qui est venue à eux?
Non.
C'est eux qui sont venus à la F1?
Un penalty pour Bordeaux. Non, ils sont pas...
C'est les supporters du, je sais pas, de l'équipe du, je sais pas, d'Interlagos, de Sao Paulo.
Alors c'est l'un des supporters, l'un des clubs de supporters d'une des équipes de Sao Paulo. Tu peux même vous dire, hein, l'équipe, hein, c'est les Corinthians.
Ah. Bah Yahoo, il sait pas.
Ah, l'autre, en fait, il a pas cherché sur Google, il a cherché sur Yahoo.
Est-ce que je sais pas, il y aurait genre un pilote de F1, tu sais, parfois ça arrive en foot où il y a une personne connue qui donne le coup d'envoi.
Non.
Non.
Il n'a pas donné le coup d'envoi.
On a parlé d'eux.
On n'a pas parlé d'eux.
On les a vus.
On les a pas vus.
On les a entendus.
Ah. On les a pas entendus.
Attends, est-ce qu'ils auraient pas été sponsors soit sur la brand de Barrichello, soit sur sa combinaison, une connerie comme
ça? Ils n'ont pas été sponsors sur la brand de Barrichello ou sur sa combinaison.
Mais sur un autre pilote.
Ils ont été sponsors.
Ils n'ont pas été sponsors. Ça serait même l'inverse.
Alors, ils ont été sponsorisés par un pilote.
Ils n'ont pas été sponsorisés par un pilote. Le mot, c'est pas sponsorisé.
Il leur a fait un cadeau. Un pilote leur a offert quelque chose.
Il leur a rien offert.
Il leur a donné quelque chose.
Ils
leur ont rien donné. Ils sont allés dans les... Je sais pas, moi. Ils leur ont payé à bouffer.
Non. Faites simple. C'est un pilote. Il les a pas sponsorisés, mais il a fait autre chose. Il les a pas rencontrés.
Il a joué avec eux.
Il a pas joué avec eux, il les a même pas rencontrés pendant le Grand Prix.
Mais il a parlé d'eux?
Il voulait montrer qu'il était avec eux.
Ah bah il a mis
un logo. Il a porté le maillot!
Et c'est qui ce pilote?
Barrichello.
Barrichello.
C'est Rubens Barrichello qui a porté le maillot des Corinthians jeudi dans le paddock pour montrer son support au club de Sao Paulo. Il fait partie donc des 24 millions de supporters du club paoliste.
Waouh!
Hein, qui fut également le premier champion de la Coupe intercontinentale des clubs FIFA hein, également remporté par le FC Paolo, le FC San Paolo en 2005.
Ah, puis je vois qu'en plus, leur couleur, c'est noir et blanc, ça fait penser au drapeau Adami.
Voilà. En 2008, le club était descendu en Série B brésilien, où il avait empoché le titre. Et en 2009, il a déjà remporté la Coupe du Brésil, ainsi que le titre de champion de Sao Paulo pour la 26e fois. Parce qu'en effet, figurez-vous, il y a tellement de clubs dans la province de Sao Paulo qui sont obligés de faire un championnat local.
Waouh.
Hein. Et que en Série A, il y a ne serait-ce que 3 clubs paulistes, à la savoir le FC Sao Paulo et le SE Palmeiras. Alors, à savoir quand même qu'il y a un joueur prestigieux qui fait partie de l'équipe des Corinthians depuis cette saison, c'est Ronaldo.
Ah oui, c'est vrai, oui. Hein,
alors qu'il est natif, Ronaldo.
Ouais. C'est qui?
Ronaldo.
Bah, Ronaldo. Bah, Ronaldo.
Le premier.
Alors,
Je plaisante.
Bouboule.
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 Je suis désolé. J'essaie de trouver un nom qui lui aille bien. Bouboule, ça lui va bien, cette dernière saison. il phénomène, comme on l'appelle dans certains endroits du monde. Il a été recruté cette année, et il faut savoir que, je crois que c'est en 2006, Rubens Barrichello avait dit qu'il fallait engager Ronaldo.
Où ça?
C'est un vrai fan, hein, Rubens Barrichello. Il se prononce même sur le recrutement de Et c'est une trahison qu'a fait notre ami Ronaldo, puisque Ronaldo est né à Rio de Janeiro.
Ah oui.
Donc, non seulement il est dans une club rival, mais en plus, il a fait pire. C'est que Ronaldo, avant de rejoindre, c'est intéressant, avant de rejoindre les Corinthians, il n'avait pas de club. Il s'était viré, il s'était fait virer du Milan AC. Mmh. Donc, il s'était entraîné avec le club de, je crois, de Flamengo, qui est le club de Rio. Et juste derrière, il signe pour aller à Sao Paulo.
Quel enfoiré.
Alors, les mecs de Gravio S d'Alpiel, là, ils ont pas...
Il l'avait vénère.
Voilà. Ouais. Enfin, les mecs de Rio, ils ont pas apprécié. Mais les grèves de Gravio S d'Alfiel, ils étaient contents, eux.
Bah ouais.
Alors bon, faut quand même savoir qu'il pourrait être bientôt rejoint par un autre de ses amis, qu'elle est dans longue.
Ronaldinho, le petit
Ronaldinho. Puis s'il allait dans longue, hein. Tout le monde a compris. Puisqu'effectivement, Ronaldinho, en ce moment, Milan AC, son poste de titulaire est plus vraiment assuré. Donc, oui. Il y a des chances, peut-être, que à l'intersaison, enfin, au mercato d'hiver ou à l'intersaison prochaine.
Il y a des boîtes de nuit à Sao Paulo.
Alors, à noter quand même que Barrichello n'est pas le seul Brésilien dans la Formule 1 aujourd'hui.
Non, c'est vrai.
Bon,
il y a Nelson.
Piqué, on n'en parlera pas. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est fan de football. Lui, c'est un sport populaire, ça ne l'intéresse pas. Mais il y a Felipe Massa.
Il y a Felipe, oui.
Qui est fan du FC...
Barcelone.
Palmeiras.
Sao Paulo.
Ah, Sao Paulo.
Ah, on est à Sao Paulo, les garçons, il faut suivre.
J'ai dit Palmeiras.
Ouais, mais non, mais c'est le SE, Palmeiras. Non, mais Felipe Massa est fan du FC Sao Paulo. Le FC Sao Paulo, qui avait d'ailleurs, quelques jours après la blessure de Felipe Massa, joué un match face à Grêmio, lors duquel il portait sur leur maillot Forza Massa, en hommage à Felipe Massa. Et donc, bon, on sait très bien que cette saison, Barrichello a pris l'avantage sur son compatriote brésilien.
Oui, bah...
Et c'est aussi le cas dans le championnat, puisque lors du match aller, les Corinthians l'ont emporté chez eux 3-1, et ils sont allés faire le match nul à Sao Paulo, un partout, lors du derby paoliste. Ça, c'est de l'info, messieurs.
Ah, carrément.
Et en formation, le fait que Barrichello supporte comme ça ostensiblement le club des Corinthians pourrait être une indication sur les transferts. Puisqu'en effet, l'équipe des Corinthians... de la Super League Formula 1 a comme pilote Bernoldi, qui pourrait peut-être l'année prochaine être remplacé par Rubens Barrichello.
Hein, ça se tient.
Ça se trouve, ça c'est de la grosse news.
Et c'est ça, il voulait être champion. Bon d'accord.
Il sera peut-être champion de Super League Formula 1.
C'est un peu mort pour la F1.
Non mais il est capable de perdre derrière Bourdais. Hein.
C'est vrai.
Bon voilà, c'était la question actuelle qui passe la pierre.
C'était une belle question. Et une belle réponse.
Ouais. J'ai bétonné mon sujet.
Mais la prochaine fois, donne des questions qu'on peut taper dans Google.
Alors, on passe au qualif.
Oui.
Qualif historique.
Bah, oui.
2h40. 2h40.
Et moi qui regrettais de ne pas n'avoir pu les voir. Mais ça n'a pas été retransmis en intégralité quand même.
Pas TF1. Ah non, de toute façon, même TF1, ils se sont même pas fait chier. Ils se sont dit, attention, c'est 18h. Ça risque de, ça fait deux fois que ça déborde, là, ça risque de déborder, hop, on dégage ça sur Horror Sport.
Et pourtant, hein, une heure et demie, on trouvait, on se souvenait, bah, c'était deux semaines avant. Bah, genre, j'ai, ouais, une heure et demie, waouh, c'est incroyable, c'est long.
Ouais, mais c'était le matin.
C'est vrai.
C'était ça ou les dessins animés, donc ils ont choisi ça, hein. Non, mais c'est vrai.
Donc, Calife sous des, c'est même plus de la pluie, c'était des hallebardes qui sont tombées. Ouais.
Même si, sérieusement, dans la troisième qualif, franchement, on pouvait rouler. Hein, ils n'arrêtaient pas de faire passer la voiture médicale pour faire des tours pour voir si la piste était, était sèche. La voiture médicale qui roule toute seule sur, qui fait un tour en 5 minutes, elle dit bah oui, c'est encore mouillé. Mais tu fais rouler des Formule 1 au bout de 3 tours, la piste elle commence déjà à sécher, donc c'est n'importe quoi. Ils nous ont refait le coup de la Chine, enfin non, du, ouais. De la Malaisie.
Donc, première équipe qui, elle, n'a pas du tout apprécié la pluie brésilienne, c'est McLaren.
Ouais!
Avec une moyenne de 17, c'est la seule équipe éliminée en Q3.
Ouf!
Kovalainen, 16e. Et Lewis Hamilton, 17e. Même pas, c'est même pas 17, c'est 16,5. Ouais. Ce qui est beaucoup mieux, voilà. Bien évidemment.
J'ai mal fait les moyennes.
Ah!
Il faut quand même dire que les pilotes McLaren ont pris le pari de prendre des réglages pour le sec.
Ouais. C'est la
pari qui s'est avéré judicieux. Ah bah.
C'est la seule écurie qui n'a pas placé de voiture dans les 10 premiers.
Et B.
Avant-dernière place, BMW avec Kubica 8e.
Ils étaient en tête la dernière fois.
Ouais, bah, j'ai dit, je refais ses moyennes.
Oui, je refais mes moyennes, mais exactement.
C'est pas sérieux. Eh, mais t'as Excel.
Non, merde. C'est pas sérieux, c'est pas préparé, ça. Ça va encore durer 4 heures. Non, au lieu de nous chercher un chiffre inutile qui veut rien dire, tu ferais mieux de faire des clignes.
Non, mais j'ai juste fait deux petites erreurs, mais je vérifie quand même. C'est tout.
Quoi, tu fais des erreurs chez Nudis, c'est pas bien. Ça se trouve, il y a plein d'erreurs dans tes chiffres inutiles et.
Ah non, les chiffres inutiles, ils sont trop inutiles pour qu'il y ait une erreur dedans.
De toute façon, personne va vérifier.
Voilà. Donc, avant-dernier, BMW, 8e place pour Kubica, 18e place pour Hetfeld, ce qui fait une moyenne de 13.
Ouais.
Et pour une fois, ils ne font pas de tir groupé. Parce que souvent, on les a vus souvent ensemble, les BMW.
Ouais.
Alors, Hetfeld, j'ai envie de dire, c'est quasiment habituel cette année pour la BM, mais Kubica, ben, 8e, c'est plutôt pas mal.
Ouais, mais il est libéré maintenant.
Oui, oui, exact.
Et il va se libérer encore plus en course.
Ensuite, Ferrari.
Oh Kimi là.
Alors, ben, non, mais le problème, c'est que Ferrari, ils ont toujours le même problème. C'est-à-dire qu'on a Kimi Raikkonen 5e.
Voilà.
Ce qui est normal pour la Ferrari. Et bien évidemment, John Fisichel, 19e, qui peut dire merci à la pénalité de Liuzzi.
Oui, mais c'est quand même très inquiétant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est 19e. Mais Dominique Ali a dit qu'il testait des trucs pour 2010. Eh ben, ça m'inquiète beaucoup.
Ah, ah non, mais ce qui est incroyable, c'est les temps. Parce que Hetfeld, qui est 18e, fait 1.25.515. Fisichella, qui est 19e, fait 1.40. C'est même plus de 2 secondes.
Fisichella, il est, le truc de Fisichella, c'est que Fisichella, il est sorti, en fait.
Ah, oui.
Il n'a pas pu défendre ses chances parce qu'en fait, c'est lui qui a provoqué la première interruption en Q1. Il est sorti, sa voiture a fait de l'aquaplaning, il a fait un tête à queue et il a fini dans le gravier. Donc, on a été obligé de remorquer sa voiture et il est sorti au moment où il pleuvait très fort. Donc, son temps de 1.40 est justifié. C'est un temps de sortie de tour. Et après, c'est allé en s'améliorant au fur et à mesure des tours.
Ensuite, Renault avec Fernando Alonso qui fait 10, habituel, et Romain Grosjean qui arrive à faire 13, ce qui est un peu mieux. Je me demande si c'est pas sa meilleure qualification.
C'est sa meilleure qualification.
Et avec une moyenne de 11,5. Bon. Ensuite, dernière équipe éliminée en Q2. Alors, c'est Force India qui aussi avec 11,5. Mais là, l'écart est encore plus grand puisque Adrian Sutil fait 3e place, ce qui est quand même pas, vraiment pas mal du tout. On pensait que la voiture elle serait bonne. Comme on l'a dit, que sur les circuits rapides, eh ben sous la pluie, Sutil, dont on connaît le talent sous la pluie, hein,
ouais,
nous l'a encore montré. Et puis, ben malheureusement, Liuzzi, 20e, bon.
Ouais, mais il fait un 15e temps à la
régulière. Mais il fait un 15e temps à la régulière. Donc, avec un 15e temps, ça leur ferait une moyenne de 9. Ensuite, les écuries qui passent en Q3. Tu vois, j'ai fait la même erreur que Yannick. J'ai parlé de Q3 au lieu de la Q1.
Eh, vous foutez de ma gueule.
Toro Rosso, avec une moyenne de 9. Puisque Buemi classe sa Toro Rosso en 6ème place. Alors, je me demande si c'est pas la... Sans doute pour Buemi, ça doit être la meilleure qualif.
Il me semble aussi.
Et donc, Alguersuari qui fait quand même 12. Donc, c'est vrai que là, on peut parler vraiment du niveau de la Toro Rosso sous la pluie.
Mais il est en forme, Alguersuari, en ce moment. Il avait déjà été plutôt bon.
Et souvenez-vous, par le passé, on avait déjà vu des Toro Rosso très bien se comporter sous la pluie. Mmh. Pas bah cette oui. année, mais...
L'année dernière.
L'année dernière.
Italie.
Juste devant Toro Rosso, on a l'écurie sœur, Red Bull, deuxième place pour Marc Weber, 15ème place pour Vettel.
Comment il a pu se gaufrer comme ça?
Vettel, 15ème.
Et encore grâce à la pénalité de Liudi.
Troisième position, donc, de notre classement des équipes, Williams, qui fait un tir relativement groupé, même groupé, on peut dire.
Même s'il aurait pu faire mieux. Hein.
Rosberg fait 7 et Nakajima fait 9, donc moyenne de 8. Donc,
ils ouais, sont ils bien placés, mais c'est quand même une qualification super décevante parce que ils avaient mieux à défendre.
Ouais. Deuxième place, alors les deux premières places sont ex aequo avec les mêmes moyennes.
Mais qui ça peut être?
Alors Toyota,
oh
Yarno Trulli 4,
Sangloc,
Kobayashi 11, et donc une moyenne de 7,5. Donc la meilleure moyenne de cette semaine, c'est 7,5.
Oh putain, tombe là.
C'est vrai, non, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup, toutes les équipes quasiment, à part McLaren, ont placé une voiture dans les 10 premiers. Ouais. Ce qui fait que souvent, on a beaucoup d'écart entre les deux voitures. Et donc Brown, qui fait 1 avec Rubens Barrichello et 14 avec Button. quand on a vu ça, on s'est dit, mon Dieu, les pires scénarios sont en train de se produire. Donc, je crois que c'était la semaine dernière, la moyenne était de 6,5. Et déjà, on s'est étonné que ça soit pas mieux.
Ouais.
Et bah là, et cette semaine, c'est 7,5. C'est encore
gros
pire.
Gros circuit.
Voilà, gros circuit, l'appui... c'est même pas de la loterie, hein. J'ai pas eu cette impression.
Ah non, c'est au niveau des performances, c'est mérité.
Ah oui. Donc voilà, c'était la qualif. Et as-tu préparé ta question historique? As-tu enfin fini? C'est bon. T'es prêt?
Alors, attention, j'ai la question historique qui a été écrite pendant l'émission.
Waouh. Hein,
à peu près au même moment où Enzo a écrit sur le blog.
Et t'as répondu.
Et j'ai répondu.
Et j'ai répondu.
Et t'as répondu.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question historique. La question que si tu réponds pas, t'es aussi bon qu'Yannick.
Bon alors, messieurs, la question historique, avant tout, je tiens à m'excuser. Parce que je l'ai pas vraiment préparé, donc c'est un peu une question historique de merde. J'étais parti sur une idée qui était l'idée d'un quiz autour des champions du monde anglais.
Ouais, ça aurait eu du sens.
Un quiz rapide, sauf que j'ai pas eu le temps de le faire.
Bien évidemment.
Voilà. Donc, on va faire simple. Alors, on va faire une question pour Shinji et une question pour Enzo.
Oh non, encore.
Une question un peu facile pour Shinji question un peu plus compliquée pour Enzo, puisqu'Enzo est quand même un peu l'expert en matière de Formule 1. Oui, je sais, c'est injuste, c'est comme les filles.
Oui.
Ben, ouais. Alors, messieurs, vous le savez sans doute peut-être, c'est la nouvelle du week-end. Jenson Button est champion du monde.
Non, sans deck.
Il a coiffé la couronne mondiale. C'est le 9e champion du monde anglais.
D'accord.
Et tous se partagent 14 titres.
Mm-hmm.
Mais. Ça, c'est facile, ça.
Mais Button est aussi l'un des champions du monde les plus expérimentés. C'est-à-dire celui qui a dû attendre le plus de temps avant d'être titré pour la première fois.
Mm-hmm.
Alors ma question, Shinji, est simple. En sachant que Button est le 2e pilote le plus expérimenté en termes de nombre de Grands Prix avant d'être champion.
Facile.
Pourrais-tu nous dire quel est le pilote le plus expérimenté
en
termes de Grands Prix avant d'avoir été champion?
Facile. C'est trop facile.
Facile. Je le rappelle, il n'y a pas de Google, pas de Yahoo, pas de StatF1.
C'est combien, Button?
Button, c'est 169 Grands Prix. Et pour tout te dire, à 7 Grands Prix près, il aurait pu être le plus expérimenté.
Ouais, donc c'est quelqu'un qui a attendu une bonne dizaine d'années.
Voilà.
Oh, c'est trop facile.
Je le sais, je veux le dire.
Pour cela, il y a un penalty de Bordeaux, pour ceux que ça intéresse, le deuxième de la partie. Et le deuxième carton rouge pour Munich.
Mansell?
Oui, c'est Nigel Mansell en 92.
92. Bah oui.
Et deuxième penalty raté pour Bordeaux. Donc oui, effectivement, c'est Nigel Mansell qui, lui, a attendu 176 Grands Prix avant d'être titré. Alors, bon, bien sûr, on va passer à la question pour Enzo. Et Enzo, la question est simple. Tu te doutes bien que, puisque Mansell est le plus expérimenté en termes de Grands Prix, c'est aussi celui qui est le plus expérimenté en termes de saison avant d'être champion, avec 13 saisons.
Ah ouais. D'accord. Ah ouais, carrément.
Button, quant à lui, a dû attendre sa 10e saison avant d'être champion.
Ouais.
Il partage ce record de la 2e place avec quelqu'un. Qui donc?
Oh putain. Bah je vais faire chronologiquement. Hamilton, non. Raikkonen 2007, il a pas commencé en 97,
non.
86 Alonso, non. Après, c'est Schumi, non. Après, il y a peut-être Mika qui naît. 97, il a commencé. Oh, non, il a commencé en 91.
Ouais.
Donc, c'est pas lui. Villeneuve, non. Non. Prost, non. J'ai oublié personne, hein. Mansell, bah, on vient d'en parler. Senna, non.
Pour info, Hakkinen a attendu 8 ans.
Ouais, c'est à peu près.
Ah, quand même,
hein. Hakkinen 7 ans.
Tu vois, j'avais dit.
Prost, 6 ans. Damon Hill, 5 ans.
Oui, bah, c'est bon, tu me déconcentres, là. C'est pas facile, déjà, hein, comme question. Donc, merde. T'es dur avec moi, quoi.
Mais oui, c'est parce que je t'aime bien, c'est pour ça que je suis dur. Je veux que tu progresses, je veux que tu deviennes le meilleur en question historique.
Oh, fuck yeah. Qui c'est qu'il y a? Tac, tac, tac. Piquet. Non. J'hésite entre deux.
Ah, vas-y.
Papa. Soit Alan Jones, soit Jody Scheckter.
Eh ben, ni l'un ni l'autre.
Andretti, alors.
Jones a attendu 6 saisons et Scheckter a attendu un peu plus, je crois d'ailleurs. Il a attendu, je vais te dire ça, Scheckter a attendu 8 saisons. Et c'est effectivement Mario Andretti.
Mario Andretti.
Qui a attendu 8 saisons avant d'être titré. Fallait le chercher, c'était bien. Fallait avoir T'étais dans la bonne période.
Ouais, quand même, oui.
T'es presque aussi bon que moi.
Non, on peut pas dire ça.
Et Shiji, parce que t'as attendu 30 secondes, t'es tout aussi bon que moi.
J'ai une question, moi, mais vous pourrez pas me donner la réponse, mais si quelqu'un a la réponse, qu'on nous le donne. Parce que je regardais tout à l'heure sur le site StatF1.
D'ailleurs, je tiens à remercier, juste pour te couper, je remercie StatF1 qui m'a permis de bricoler cette question historique en moins d'une demi-heure.
En fait, il y a eu 37 Grands Prix au Brésil, et en 2009, c'était le 38e. Et le première année en 73, c'était le 2e Grand Prix du Brésil. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi, c'est tout.
Bah, en même temps, tu prends à Monaco, c'est le 67e Grand Prix, hein.
Et
il y a eu 56 Grands Prix de F1.
D'accord, bon, bah, ok.
Pour les vieux Grands Prix comme ça, oui, ça peut arriver qu'avant que ça rentre en F1, ils considèrent comme Grand Prix de leur pays
d'accord,
une autre discipline, quoi.
Ok, voilà, bah, j'ai ma réponse. Merci, Sinji.
On va passer à la course.
Ouais.
Ouais.
Et le Classão.
Le Classão. Wow,
Classão do Brasil.
Classão do Brasil.
Ah, très bien le portugais.
Merci.
Et Bordeaux gagne. Juste comme ça pour info.
Merci pour l'info.
C'est du direct live.
Donc, avec notre fameux classement, donc je dois dire, cette semaine, il y a un gros consensus, puisque on fait un classement à 8 pilotes, et que ce soit... Non, mais il n'y en a que 9.
Ah bah, comme la première fois.
Voilà. Dont un, en fait, il a été, que ce soit nous ou du côté des auditeurs, n'a été cité qu'une fois. C'est le 9e, c'est Buemi. Que toi, Yannick, tu as mis 8e.
Vous avez oublié Buemi?
Ah, mais il y en avait tellement.
Il y en avait tellement.
Ça m'a fait chier de ne mettre que 8e, mais c'est vrai que j'avais pas le choix.
C'est vrai.
J'avais pas le choix. Non, mais on peut pas lui mettre un demi-point, même virtuel.
Non.
Ah non, on donne pas de demi-point au neuvième.
Mais ça compte pas de manière.
Ouais, voilà. Mais quand même, juste comme ça, symboliquement, un demi-point.
Non.
Symboliquement, un demi-point,
non.
Les mecs.
Non, tu nous dis, Yannick, on a oublié Bémy. Mais Yannick, tu n'as pas mis Barrichello, qui est huitième.
Non, mais Barrichello. Oh.
Barrichello.
Mais Barrichello, il fait une course de merde.
Enzo l'a mis en quatrième place, je l'ai mis en huitième.
Bon. Non, mais comparez pas
Barrichello. Lui, il a même pas mis.
Non, mais seulement, comparez pas Barrichello. Barrichello, il part premier, il finit huitième. Buemi, il se qualifie pour la première fois en Q1.
Oui,
en Q1,
mais Q3, objection, moi, objection.
Et il se qualifie en Q3 et il reste en Q3, il marque 2 points et tu le mets 4e et vous ne donnez pas de points à Buemi.
Attends. Barrichello, c'est son écurie qui lui a magouillé sa pression de pneus.
Oh.
Mais c'est ce qui s'est dit. C'est ce qui se dit.
Ce qui s'est dit, mais non, ça c'est la fausse excuse pour expliquer, mais non, il a été mauvais, c'est tout, il a été mauvais.
Hein. Il a été cité par tous nos auditeurs quand même. Il y a que toi qui l'a oublié.
Non mais quand même, comment vous pouvez oublier Bémy, quoi. Alors c'est sûr, on l'a pas beaucoup vu. Non mais c'est vrai.
Chez nos auditeurs, il y a que Berthaillot qui a cité Bémy. Hein.
Faut être honnête, on l'a pas beaucoup vu Bémy pendant la course.
On l'a pas vu.
Ouais. Mais quand même, faut quand même regarder par rapport aux résultats. C'est toujours une course où il y a un champion du monde, c'est sûr qu'on voit jamais la course vraiment. Mais là, quand même, Buemi, il fait 7e, il marque 2 points, ça faisait depuis le Grand Prix de je sais plus quand qu'il ait plus marqué de points.
Alors ensuite, on a 2 pilotes ex aequo à la 6e place.
Bah,
il y avait Vettel.
Ouais.
Vettel, donc Yannick. Yannick, toi tu l'as mis 6e, moi je l'ai mis 7e.
Alors,
troisième.
J'aimerais juste justifier mon Barrichello.
Vas-y, justifie.
Et justifie aussi ton Vettel par le coup, même occasion.
Alors, Barrichello, pourquoi je l'ai mis aussi haut? Déjà pour son début de course, parce qu'il a fait un beau début de course quand même. Hein. Et surtout pour sa classe.
Toi, il part en tête. Hein.
Ça, oui, mais quand même. Pour sa classe et son attitude vis-à-vis de Button à la fin de la course.
Il allait pas rentrer dans le paddock et lui casser la gueule, quoi. Il allait pas lui cracher à la figure non plus.
T'aurais été dans la même situation, je sais pas ce que t'aurais fait.
Moi, j'aurais rien fait, c'est mon coéquipier, il a gagné honorablement, voilà, c'est moi qui fais une mauvaise course, je vais vers lui et je l'applaudis, quoi, y a rien à dire.
Pardon.
Et alors?
Vis pas dans tout le monde, Enzo.
Ben oui. sinon, tu nous as aussi mis Vettel 3e.
Oui.
Pourquoi?
Bah parce qu'il y a toujours cru.
Mmh. À noter que parmi nos auditeurs, il y a que Globen qui l'a mis 2e. Hein? Sinon Globen, après, c'est pas mieux que la 4e place. Hein. Et alors Berthaillot, Vettel, il l'a même pas vu. Enfin, il l'a pas mis dans ses 8 premiers en tout cas.
Mais c'est vrai qu'il faut sur cette course, c'est dur de faire un classement.
C'est très dur parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui se sont vraiment illustrés.
Ouais, et puis qu'on fait des performances remarquables. Donc
autre sixième, c'est Hamilton. Alors Yannick, tu l'as mis 7.
Ouais.
Moi, je l'ai mis carrément 2. Et Enzo l'a mis 8. Donc c'est moi qui fais grimper la note.
2.
Et pourquoi 2?
Plus
2.
Plus 14. Plus 14. Il a gagné 14 places pendant la course.
Oui, non, mais il avait une voiture réglée pour le sec aussi, c'est normal.
Ouais.
Il a Leclerc, c'est une voiture réglée pour le sec, il a gagné des places à cause des dépassements. Là, faut arrêter, Shinji, là-haut. Ah non, Shinji,
plus 14.
Non, faut que t'arrêtes, Shinji.
Bah écoute, Berthaillot l'a mis premier, TNT l'a mis deuxième.
Non, mais attends, c'est pas parce que nos auditeurs disent n'importe quoi qu'il faut.
Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des dépassements, F1?
Pas forcément.
Non, pas forcément.
Il y en a déjà assez peu. Quand il y a un pilote qui gagne 14 places en course, on va quand même pas lui reprocher.
C'est vrai que moi, personnellement, j'ai eu un scrupule à le mettre si bas. Je me suis posé la question. J'ai mis plein d'autres pilotes avant parce que je voulais les mettre devant. Et puis je suis arrivé au 6e et j'ai eu le choix entre Vettel et Hamilton. Et depuis quelques Grands Prix, je me fixe comme règle, si jamais j'ai un doute entre un pilote qui a un Kers et un pilote qui a pas le Kers, je mets toujours le pilote qui a pas le Kers avant le pilote qui a le Kers. Donc j'ai mis Vettel devant Hamilton comme ça. Mais c'est vrai que j'ai eu un scrupule parce que Hamilton, plus que sa course, il fait une belle course, il fait une course solide, il n'y a rien à dire. Il y en a d'autres qui m'ont impressionné devant, mais il fait une très belle course. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans, dans la course d'Hamilton, surtout, c'est qu'il a été en position d'être autour de Barrichello, de Button, etc. Et il a jamais attaqué, il a jamais cherché à entraver. Il a fait ce qu'on a dit, à tout le monde avant la course. Les seconds couteaux, les figurants, vous faites rien. Et lui, qui pourtant est champion du monde en titre, qui aurait pu aller foutre le ménage et dire non, moi je m'en fous, je passe, c'est bon les mecs, je suis champion du monde. Non, il s'est écarté de la lutte pour le titre. Il a attaqué Barrichello au bon moment, quand il savait que ça allait pas embêter Barrichello. Il a franchement, c'est sur ce coup-là, chapeau Monsieur Hamilton, j'ai rarement le cas de le dire.
Donc, c'est enregistré.
Non, c'est Vincent Enzo qui va ressortir le bravo Monsieur Hamilton.
Sauce. Au revoir. Non. Sinon, à la cinquième place, Raikkonen. Alors là. Yannick, tu l'as mis quatrième. Moi, je l'ai mis sixième. Enzo, tu l'as mis cinquième.
Ouais. Et après réflexion, je l'aurais mis deuxième.
Ah bah non, t'as mis Hamilton.
Non,
il a pas mis Hamilton.
J'ai mis septième.
Ah, pardon.
Mais moi, surtout, c'est sur la course de Raikkonen. On l'a appris après. Et de toute façon, dès que j'ai vu l'accident avec Kovalainen, je l'ai su.
Il en avait dans l'œil.
Ouais.
Quand vous regardez l'accident, quand la première caméra qu'on voit de face, c'est généralement ce que font les pilotes quand ils sont au stand, ils relèvent la visière.
Ouais.
Et donc là, quand il est reparti, il avait la visière à moitié levée. Et donc il s'est pris d'abord de l'essence dans la figure, et après il s'est pris les flammes. Et moi, ça a été ma première question, je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas atteint au visage? Et quand je l'ai vu se mettre sur le côté et ralentir, je me suis dit, ça se trouve, il est brûlé au visage.
Mais même d'ailleurs, quand les gouttes arrivent, on voit qu'il lâche le volant. Alors, je me demandais si c'était pour une question de sécurité tout ça, mais c'est peut-être justement à cause des gouttes,
ouais,
pour mettre ses mains justement en face de ses yeux.
Et après, ben, pendant toute la course, il a eu les yeux qui brûlaient et il fait une super course, une course très solide. Alors c'est sûr, c'est sûr que c'est facile de gagner 14 places quand t'es 17e. C'est plus facile de gagner des places quand tu pars loin, quand tu es devant. Il fait un bon départ. Après, malheureusement, sa course est ruinée par Weber, parce que je pense qu'il est victime de Weber. Et c'est vrai qu'après, bah, malheureusement, avec ce problème dans les yeux, bah, il fait la course qu'il peut et il fait une super course. Voilà. Il me fait plus en plus plaisir. Là, en
cette accident assez impressionnant. En plus, beau milieu des stands, même si, rappelons-le, c'est quand même le pilote le plus inflammable du plateau, hein, puisqu'on sait que son corps n'est pas composé que d'eau. Mais ne serait-ce que pour les gens.
J'adore Enzo qui vient juste de la comprendre.
Oui, j'avoue.
Mais pour tous ceux qui sont autour, peut-être pas tant ceux qui font le ravitaillement, mais vous avez vu, il était quand même assez à droite, pas très loin des gens qui sont en face du muret, qui eux, bah, ils n'ont pas de protection. Et ouais, on n'est pas passé très loin de quelque chose de très dramatique. Quatrième, Mark Webber. Alors Yannick, tu l'as mis premier.
Oui, mais je tiens à vous dire que j'ai fait mon classement et je me suis dit, je peux pas toucher à Webber. Mais après réflexion, mais si. j'aurais mis mon troisième et mon quatrième en premier et deuxième, et j'aurais mis mon premier et deuxième en troisième et quatrième.
Oh là là, c'est compliqué.
Mais je me suis dit, non, trop tard, le classement est envoyé, t'y retouches pas. Sinon, ça, donc, tu vas avoir des doutes.
Donc moi, je l'ai mis cinquième, et Enzo, tu l'as carrément mis septième.
Bah ouais.
Bah, il fait une course solide, mais il fait pas non plus quelque chose d'incroyable.
Ouais, alors, on en reparlera sûrement.
Mais il fait rien d'incroyable parce que justement, on le voit pas à la télé.
Mais il fait une course extrêmement solide. Il fait une très bonne course.
Il fait un coup de pute à Raikkonen. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot.
Ah oui, bah, je suis d'accord. C'est ça qui me fait regretter d'avoir mis premier.
C'est pour moi, c'est ça que je l'ai descendu, moi.
Mais je suis content qu'il soit quatrième.
Bon, on en reparlera sûrement, mais ça fait deux victoires cette saison qu'il a, et à chaque fois, il a donné des coups de roue au départ.
On lui donne la réputation d'être difficile à dépasser, c'est vrai que, mais avec lui, c'est plus que, on est au-delà de la limite.
Le voilà. Met dehors, faut arrêter, quoi.
Non, en moi, juste pour quand même justifier le fait que je le mets en premier, à chaud, c'est surtout parce que, en voyant le déroulement de la course, voyant la stratégie de Vettel, j'avais qu'une peur, c'était qu'on demande à Weber de s'incliner pour laisser passer Vettel. Et je trouve que sur le week-end et sur la course, surtout après le Japon, il méritait sa victoire, qu'il avait été la chercher et que, en dehors du nuage de fumée qu'a été Barrichello en qualif, puisqu'il partait plus léger, etc., que le vrai homme fort à Sao Paulo ce week-end, ça avait été Weber. Et donc, juste parce que j'étais heureux qu'il ait gagné, je me suis dit, voilà, tu le laisses premier. Mais c'est vrai qu'après coup.
Donc, troisième, qui va rentrer dans notre classement, et ben, c'est le champion du monde, Jenson Button.
J'ai plus combien je l'ai mis.
Yannick, tu l'as mis 5e.
Quoi?
Mais c'est normal le 5. 5 champions du monde, c'est normal. On peut rien
Je l'ai mis 4e. Mais Enzo, lui, il a carrément mis 2e.
Ouais. Alors pourquoi Enzo?
Mais parce que.
Pour la même chose que nous, je pense. Mais
non, mais parce qu'il il a été tout le temps à l'attaque. Là, je l'ai vraiment vu dépasser.
Oui.
Contrairement, si tu compares par rapport à la course de Hamilton il y a 2 ans, où il était. Il avait un peu plus le couteau sous la gorge, étant donné que c'était la dernière course. Mais là, il allait le chercher, son titre. Quoi.
Oui, ouais. Ça, c'était étonnant.
Il est vraiment allé le chercher. Je pense que c'est le fait qu'il y ait eu beaucoup d'incidents au premier tour, ça l'a un peu le galvanisé. Il s'est dit, finalement, je suis plus si loin des points. Je peux conquérir le titre dès cette course. J'y vais. Je me donne toutes les chances. Et puis, en plus, il avait Vettel au cul, et je pense qu'il lui a mis un peu une pression aussi.
Puis il finit cinquième, c'est-à-dire que même en rentrant dans les points, il a continué. On l'a vu à fond tout le week-end.
Bah, il devait se contenter d'une sixième place, je crois.
Voilà. Mais c'est vrai que très très agréable à voir Jenson Button. Hein.
Ouais. Bah, on a retrouvé un Jenson Button comme on aime le voir. On l'a vu au début de saison. Au début de saison, il était. On se rappelle la course de Bahreïn où il avait été très bon.
Il n'avait pas à faire des dépassements comme il a fait là, quoi.
Oui, voilà.
Là, c'était le côté agréable. Et mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette piste, au moins on peut dépasser, quoi.
Ouais.
Oh là là, puis au moins ça monte, ça descend.
C'est pas gagné pour Abu Dhabi.
Ah oui, on parle pas.
Mais moi, c'est justement, moi j'ai tenu dans les duels. Je voulais mettre avant Raikkonen et un autre pilote, donc j'ai pas mis plus haut, mais je tenais quand même à le mettre mieux que Vettel et mieux qu'Hamilton, parce que je trouve justement que même si Vettel et Hamilton font des courses solides, mais lui a fait taire ses détracteurs qui disaient que c'était il manquait de panache, etc. Il allait chercher son titre avec du panache contre l'adversité parce qu'il partait très loin. Il a offert un nouveau scénario un petit peu abracadabrantesque, le 3e de suite pour aller chercher le titre. Je dirais même le 4e de suite. Mmh. Donc voilà, on a encore eu une belle course au Brésil et il en a fait partie. Et j'aimerais bien que ça devienne une tradition chez les champions du monde. C'est que lorsqu'il faut gagner le titre, qu'ils aillent le chercher. Et là qu'il aille le chercher, c'est vrai que ça fait vachement plaisir.
Ça fait quand même un paquet de belles courses de suite là au Brésil. Hein.
Ouais.
Est-ce qu'on pourrait pas faire plusieurs Grands Prix au Brésil dans l'année?
Moi je dis on devrait faire Brésil, France, Brésil, Angleterre, Brésil, Monza, Brésil.
Puis on alterne l'essence. Une fois on fait dans l'essence, une fois dans l'autre, histoire de changer.
Oh la vache, le dernier tour dans les S de Sénat.
2e place, alors quelqu'un qu'on avait plus revu dans les points du classement de la SAV depuis Melbourne.
Ouais! Donc je sais qui c'est qui est premier, je suis content!
C'est Kubica. Yannick, tu as mis Kubica 2e. Ouais. Moi je l'ai mis carrément premier. Enzo, lui, tu l'as mis seulement 6e.
Oui.
Hein. Il était en réglage.
Oui, c'est ce qu'on dit, ça. Non, mais bon, oui, il a fait une belle course, mais comme Weber, quoi.
Mais c'est vrai que c'est dans le même domaine que Weber. Hein. C'est course, course d'abord efficace, mais discrète, parce qu'effectivement, il n'y a personne à doubler. Et ensuite, doublement discrète, parce que le championnat du monde, il se jouait ailleurs. Donc,
mais sincèrement, le podium, mais on n'en avait rien à foutre.
Ah oui, mais ouais. Il n'y avait strictement rien.
Carrément. Et donc, premier, un petit nouveau.
Ouais, je suis content.
Yannick, tu l'as mis 3e, ouais. Je l'ai mis 3e, Enzo tu l'as mis 1er, je peux vous dire que Globen l'a mis 1er aussi, c'est Kamui Kobayashi, c'était sa première vraie course, mais c'est vrai que c'est un peu la révélation du Grand Prix.
Ouais. Je vais vous dire honnêtement, moi j'ai vu sa course, ça m'a fait penser à Alesi à ses débuts contre Senna, pas vraiment ses débuts, mais en 90 à Phoenix. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça, quoi.
Oh, le pauvre, sa carrière, elle est foutue.
Je me doutais que t'allais me dire ça.
Tu devrais anticiper maintenant.
On peut se dire que là, avec la démonstration qu'il a faite, pour l'an prochain, où on sait pas s'il va signer ou est-ce qu'il va signer.
Mais là, sans doute à Abu Dhabi, alors que Glock, visiblement, pouvait conduire à Abu Dhabi. Hein.
Mais oui. Il se murmure qu'il pouvait même conduire au Brésil, mais qu'il y avait deux raisons.
Des, Il y avait des menaces.
Et alors, il y avait des menaces de certains Brésiliens, des menaces de mort, parce qu'il faut quand même se rappeler que Glock est jugé par une certaine bande d'ahuris au Brésil et à travers le monde comme étant l'homme qui a offert le titre à Hamilton, même si aujourd'hui on sait que c'est Nelson Piquet Jr., un autre Brésilien, et que lui, il n'est pas menacé de mort. Et ensuite, la deuxième raison, c'est qu'on en aurait aussi profité pour se dire, tiens, justement, pour encourager le board, faisons rentrer Kobayashi au Brésil, donnons-lui un grand prix. Et c'est là qu'il fait fort. Faut quand même revenir sur la carrière de Kobayashi. Il a été champion GP2 Asia Series l'année dernière. Donc c'est le champion en titre GP2 Asia Series. GP2 Asia Series qui reprend, je crois, ce week-end. Et il a été, mais transparent avec Dams, cette année en GP2. C'est une nouvelle preuve, s'il en est, hein, que on peut être moins bon dans les séries d'accès à la Formule 1 et bon en Formule 1. Et c'est vrai que c'est pas forcément une surprise, parce que je l'avais vu en Asia Series l'année dernière et je l'avais trouvé plutôt bon. Pour un japonais, j'avais trouvé très bon. Mais en même temps, c'est surprenant parce qu'il avait été vraiment très transparent cette année en GP2. Il a pas fait grand chose. Alors qu'inversement, vous avez Romain Grosjean qui a gagné plusieurs courses en GP2, qui malheureusement cette année en Formule 1 montre pas grand chose.
Non, mais là en plus, voilà, c'est le parallèle avec Romain Grosjean qui
ah, là, ça fait mal, quoi. Hein.
Puis c'est un vrai parallèle. C'est un vrai parallèle, parce qu'en plus, c'est un japonais qui débute dans une écurie japonaise contre un français qui débute dans une écurie française. Donc tous les deux.
Puis en milieu de saison.
En milieu de saison, dans un contexte qui est pas facile, dans une écurie en proie au doute.
Non, là vraiment, belle révélation, quoi. Et on peut se dire qu'il sera le. Sans doute.
Le plus rapide que Mirai Kenen.
Non, il sera pas chez Toyota.
Mais non, c'est juste pour faire monter les prix chez McLaren. Ouais. Tout le monde le sait, ça. Ah, par contre, c'est ça le problème, c'est que l'année prochaine, ils vont mettre qui chez... Parce que il y a la rumeur Buemi. Ça serait Buemi Kobayashi l'an prochain chez Toyota.
Ou Glock Kobayashi.
Oh non, pas Glock. Hein. Ah non.
Pourquoi? Oh, non, mais attends, Glock va donner sa chance quand même.
Je suis porté. Mais il a déjà eu sa chance.
Il a fait des belles choses quand même.
Oui, une course sur
trois. On ne peut pas dire ça.
C'est un peu dur. C'est dur.
Kimi Raikkonen, mais au moins, il fait des bonnes courses. Une demi-saison sur une demi-saison.
Une saison sur trois.
Ça, c'est les grands champions. Mais c'est ça. C'est si Timo Glock qui faisait ses bons résultats sur toute une saison, il serait champion du monde. Mais le problème, c'est qu'il fait une course sur trois, ses bons résultats. Faut qu'il arrête. Qu'il fasse deux saisons de merde et la troisième, comme, et regardez, Button. Deux saisons de merde, une saison parfaite.
Ouais.
La théorie des deux tiers, un tiers, elle se confirme.
Donc, au niveau du classement du SAV, donc on a Button avec un point. Alors lui aussi, il avait pas marqué de points dans notre classement depuis la Turquie, hein.
Ouais.
Et il s'était fait doubler par Vettel, et il revient à égalité.
Ah ouais, ça va être beau, ça, pour l'avoir compris.
Kubica 3 points. Alors c'est pareil, hein, lui il avait pas marqué de points depuis l'Australie.
Ouais.
Et donc Kobayashi qui rentre direct avec 5 points.
Oh la vache.
Donc Yannick, hein, tu nous feras les petits calculs pour le classement sur la F1. Sur
ouais,
le
voilà, site. Vous allez sur le site, hein, www.savf1.fr.nf.
Alors, pour le classement.
C'est rubrique classement des constructeurs, classement du SAV.
Ouais.
Oh là là.
Qui connaît son website.
Carrément. Donc, le classement des auditeurs, donc, ils ont été 5, Berthaillot, TNT, Globen, Maël et Iceman Air. Alors, donc, comme je l'avais dit, 9 pilotes. Buemi, 9e, là encore, avec une seule fois cité. Bon. Ouais. Barrichello, 8e.
Bon, c'est bon, là, avec Buemi, la merde, hein. Oh.
Vettel, 7, donc comme nous. Par contre, ils ont mis à égalité Kobayashi et Button.
Si loin que ça?
Oui. Ils savent pas
Iceman,
bosser le talent.
Iceman Air a mis Kobayashi 7e, Mael 8e.
Ah la vache.
3e ex aequo, Hamilton et Raikkonen.
Ouais.
2e, Weber. Et donc, 1er, Kubica.
Normal, il y a TNT qui a parlé.
Pouf. Ah bah oui, il a mis Kubica premier, comme Maël.
Tu m'étonnes.
Il a voté deux fois comme Maël.
Non, il a pas voté deux fois, il a voté qu'une seule fois. ce qui n'est peut-être pas le cas, puisque en plus, c'est la prochaine rubrique, c'est l'effet marquant. Hein. Et Enzo, on le connaît.
Ah, la gifle que j'ai pris.
Oui.
Ah, j'ai honte. Alors,
quand on voit le résultat, on voit que ce qui a été intéressant, quand même, ça a été les qualifs. Hein.
Je dois le dire, je n'assume pas cette défaite. Je pense que c'est la faute de la Formule 1 si j'ai perdu.
Donc, premier. Attention, écoutez bien, parce que les différences sont subtiles. Premier, c'est la multiplication des accidents en qualification. 50%, 12 votes. Deuxième, la foultitude des pénalités après les qualifications. Deuxième, 11 votes, 46%. Et donc, si vous
êtes... Oh, Enzo! Oh, TNT!
Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, Enzo qui vote deux fois, TNT qui vote deux fois. Et les mecs, faut arrêter, là.
Et donc, si vous additionnez bien, 50 et 46%, ça fait 96%. Où sont les 4 petits derniers pourcents qui restent?
C'est le vote de Yannick.
Il y a un autre lit qui réalise une course solide avec un vote, c'est-à-dire celui de Yannick. Donc, l'effet marquant. Alors, c'est à toi, Yannick.
C'est à moi. Oui. Qu'est-ce que je vais mettre?
Tu as pas réfléchi. En attendant que Yannick vous trouve
un effet marquant. Encore une fois, j'hésite entre Button et Kobayashi.
Mm-hmm.
Et je vais quand même mettre les débuts tonitruants de Kobayashi.
Alors, le problème, je vais te dire pourquoi tu as perdu d'avance. Non, mais je vais expliquer tout simplement. Parce qu'on a vu tout de suite, parce que moi aussi j'avais pensé à ça, mais on a vu qu'avec le classement, que les auditeurs n'y avaient pas été sensibles. Ils ne l'ont placé que cinquième.
Mais c'est pas con ton idée là-dessus, ce que disaient les gens dans le... Je vais réfléchir. Alors je change d'avis, je pense que c'est la course de Kubica.
Pas d'accord.
Alors Enzo, ton fait marquant.
Mon fait marquant, ce sera le feu dans les stands et...
Ah non!
Si. Donc, le fait que, voilà, le feu dans les stands lors du ravitaillement de Kova, quoi.
Bah, moi, je vais dire, les qualifs historiques. Parce qu'on est...
pas deux fois de suite, tu vas gagner avec les qualifs.
D'accord, tu veux pas que je dise les qualifs? D'accord.
Si, c'est
non, je peux t'en donner un autre.
Et il va dire Button champion.
Non, je vais pas dire Button champion.
Non, t'as dit les qualifs, c'est les qualifs. C'est trop tard.
Non, il a pas eu le temps de finir ce qu'il a dit.
Je peux t'en donner un autre, c'est pas Button champion.
Bah, vas-y alors.
C'est Trulli qui se bastonne avec Sutil.
Ok, on va juste.
Donc je prends lequel, les qualifs ou Trulli?
C'est comme tu le sens.
Ah bah non.
Non, t'assumes. Attends, sincèrement, je veux dire un truc. Les qualifs, c'était une bonne truc parce que Trulli, il a fait qu'un vote la dernière fois avec sa course rapide. Or, si se bastonne.
Oui, mais bon, là,
justement, un truc négatif vers lui, ça se trouve, ça va marcher.
Ah, oui. Peut-être.
Non, Shinji, Trulli ou les qualifs?
Moi, les qualifs.
Merde, j'ai écrit Trulli, merde. Hein.
Oh, c'est bon, j'ai gagné. J'ai gagné.
Ah, voilà, ça y est.
Donc on va
mission de merde. Allez, j'abandonne, je vous quitte les mecs là. Je vais encore perdre, encore finir dernier comme un gros nul là.
Donc on passe au podium des championnats. Bon qui
mais t'as pas dit où les gens pouvaient voter?
Bah ils peuvent voter sur le site savf1.fr.nf comme toutes les semaines.
Ah comment tu te sauves?
C'est pas comme si ça avait changé depuis deux semaines. Donc, les podiums des championnats. Donc, bon, les titres sont joués.
Hein. Il y a plus de scénario, c'est con.
Il y a plus de scénario. Alors, s'il y a peut-être un petit intérêt, c'est pour les places en dessous. Puisque Vettel et Barrichello sont séparés que de 2 points.
Mais il s'en fout, Vettel.
Vettel s'en fout, Barrichello s'en fout.
Vice-champion du monde, ça serait quand même chouette. Hein.
Sinon, ce qui est peut-être aussi intéressant, c'est petite rivalité Ferrari-McLaren.
Puisque
Hamilton a 49 points, Raikkonen a 48 points, que McLaren Mercedes a 71 points et que Ferrari a 70 points.
C'est une rivalité à 5 millions quand même.
Ouais.
C'est une rivalité à 5 millions, c'est une rivalité aussi à une voiture. Hein, puisque bon, Kovalainen et Fisichella,
Non, 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 Kovalainen est meilleur physiquement, je peux même pas te dire ça.
Et il est meilleur. Mais, oui, ça, oui, oui. On est d'accord.
Ah, on peut cliquer. Pardon. Oui, on peut en fait, sur, non, mais sur le dessin concours top position, on peut cliquer et ça nous envoie.
Sur le formulaire de contact.
Ah oui, mais fallait me le dire, je l'aurais mis dans mon message.
Non, mais les auditeurs ont compris. Ça se trouve, ils vont tous découvrir qu'on peut cliquer.
Maintenant, on passe au drive-thru.
Oui!
Wouh! Alors, qui veut commencer?
Ah bah, moi, je veux bien.
Bah, vas-y.
Ah, moi, ça sera un énorme drive-thru. Un gigantesque drive-thru.
Oui.
Contre le podium.
Quoique, non, j'en ai. Non, je voulais vous laisser dire. Je vais vous laisser dire parce que j'en ai deux. En tête.
Comme papa. Mm.
Voilà.
Vas-y, Enzo. Énorme
drive-thru.
Eh ben, moi, encore une fois, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est contre Mark Webber. Qui est président du GPDA, qui a critiqué.
Ah, c'est pour ça que t'as dit, on en reparlera.
Eh oui. Et qui a son coup de roue sur Kimi. Et il n'y a pas de pénalité, alors que la dernière fois c'était en Allemagne, il me semble. Il avait été pénalisé. Bon, ça l'avait pas empêché de gagner. Mais je trouve qu'il est limite dangereux quand même.
Ouais.
Et il fait grand monsieur. Moi je suis le président du GPDA, je fais attention. Bon, je n'ai pas trouvé très fair sur ce coup-là, quoi.
Mais on a eu la même manœuvre hein, de Kobayashi, je crois.
Certes. Ils n'ont pas la même expérience. Bah,
non, sur Kobayashi, d'abord, il n'y a pas la même expérience, et puis sur Kobayashi, il y a quand même Nakajima qui est très très optimiste, surtout parce qu'il joue un peu son avenir au sein de... les deux se battent pour le même poste. Hein. Il y a le japonais de chez Toyota, et il était juste derrière, il s'est dit, il faut que je me le fasse, et il en a payé de sa personne.
C'était mon drive-thru, donc contre Webber.
Et t'en avais un deuxième?
J'en ai également un deuxième.
Mais tu le gardes pour après?
Bah, si vous voulez.
Tout le monde en aura deux. Si chacun en donne deux, je vais le donner le premier. Bah, mon premier drive-thru, mon premier énorme drive-thru, ça serait contre Jarno Trulli.
Ah, bah, c'était un de mes deux.
Parce que Jarno Trulli, alors, je sais pas ce qu'il nous a pété. Alors, en plus, c'était très drôle, parce que c'était très bien, parce qu'il y a eu un pépin de son à ce moment-là. Et on a vécu le truc en direct sans les commentaires des commentateurs, et c'était génial.
Oui.
Et Jarno Trulli s'est énervé contre le pauvre Stutti à peine sorti de la voiture, alors que le plus énervé des deux, ça aurait dû être Alonso qui était loin derrière,
oui.
Qui était super énervé, alors que c'est quand même lui qui va dépasser Adrian Stutti sur le vibreur, et il reproche à Adrian Stutti de l'avoir débordé. Bah non, après le deuxième virage, il est sur une piste étroite en plus. Il te laisse juste 30 cm sur le vibreur. C'est toi qui montes sur le vibreur, t'es pas obligé de le dépasser, tu peux attendre. Et le pire, c'est que après que Buemi ait tenté de tempérer un peu et de dire bon voilà, il était énervé et tout, j'ai essayé de lui expliquer, etc. Derrière, il en remet une deuxième couche dans les médias en disant que voilà, c'est de la faute de Sutil, etc. Et un peu la boule pépé, hein.
Ouais.
Donc ouais, franchement, il m'a agacé sur ce coup-là.
Ah bah pareil, bah c'était un de mes deux drive-thru, tu vois. C'est pas, surtout qu'on voit bien, à un moment on a eu la vue intérieure de Sutil, et on le voit pas Trulli, on le voit au dernier moment.
Ah, c'est clair. Ouais.
Et Trulli, il est quasiment, il est sur vibreur à moitié dans
et
l'air.
Voilà. Et en plus c'est sa faute, c'est-à-dire que lui il a quand même l'expérience du circuit d'Interlagos, il a une dizaine de saisons à son actif, et il sait très bien que les vibreurs à Interlagos, dès que tu montes dessus, t'es déporté vers l'extérieur du vibreur. Et il avait qu'à pas monter dessus. Il savait très bien ce qu'il allait faire.
Eh
ça
n'a
pas monté, il est monté dessus, il a glissé, il s'est tapé, il s'est bouffé le mur.
Okay, il a essayé de doubler à l'extérieur. Bah, okay. Voilà, quoi. Alors, le mien, c'est à la fois surtout au directeur de course et puis un peu à Button sur son dépassement sur Kobayashi. Ça m'a un peu énervé. Alors, on le sait, c'est la fin de la saison. Il y a des directives qui sont données aux pilotes. La règle évidemment c'est de ne pas gêner les pilotes qui jouent le titre pour que ils se retrouvent pas voir leur saison complètement bousillée par être percuté, quelque chose comme ça.
Et surtout vis-à-vis des seconds couteaux
de l'équipe rivale. Ça. Et donc c'est vrai que Kobayashi était plus lent que Button. Et alors déjà on a entendu Button demander à son physio. Enfin, il a cité Charlie Whiting en réclamant quasiment comme un petit garçon qui a pas ce qu'il veut qu'on lui offre sa sucette. Et c'est presque ça, hein.
Ah, c'est sévère, là.
Ouais, mec. Et Kobayashi, il a dû s'exécuter.
Je suis pas sûr qu'il soit exécuté.
Ah, disons quand même que que, comme par hasard, une minute après, Button arrive enfin à dépasser Kobayashi.
on est d'accord, c'est normal et c'est important que les gens qui jouent le titre soient pas gênés. Mais maintenant, ils sont pas les seuls à rouler. Je veux dire, à partir du moment où il y a quelqu'un qui est devant eux et qui veut pas leur laisser passer, on n'a pas à leur laisser la place. On va pas faire une course avec trois pilotes sous prétexte que c'est les seuls qui peuvent jouer le titre. Une course, c'est une course. Bien sûr, elle fait partie d'un championnat, mais ceux qui jouent le championnat, ils sont pas tout seuls.
Ouais, c'est pas le but. En plus, c'est anti-sportif dans la mesure où, dans ce cas-là, autant dire tout le monde se met hors trajectoire, on laisse passer Barrichello, Vettel et Button, ils sont en première place, et puis c'est juste Castagne en première place.
Tout à fait.
Donc voilà, c'était mon drive-through, parce que le deuxième, c'était le même que Yannick, c'était pour Trulli. Voilà. Donc Enzo, t'en avais un deuxième? Un petit deuxième?
Ouais, moi, c'est un mini drive-through.
Ouais?
C'est sur McLaren Kovalainen. Je dis simplement vivement qu'il n'y ait plus de ravitaillement, quoi. Ça évitera quand même...
Et encore une fois, c'est McLaren qui aura copié Ferrari.
Ouais.
Et oui.
Avec un an de retard.
Ouais.
Sachant que même avec copier, c'était qui Spiker. Avec un an de retard. Ouais.
Au Grand Prix Albers au Grand Prix de France.
France, ouais.
Et moi, la question, c'est est-ce que... Parce que je me rappelle plus qu'il y avait eu Massa, je crois que c'était une pénalité de 10 000 $ ou un truc dans le genre après le Grand Prix. Est-ce que Kovalainen a une pénalité après? Parce que je crois qu'il a une pénalité.
Oui, ils ont été pénalisés, je crois.
Mais ils ont été pénalisés en course, je crois, non?
25 secondes.
Pas en course. Après course. Donc il a fini en 1h33 et 36 secondes. Il était en 1h33 11 secondes. Donc normalement il était 9e.
Voilà,
il a fini 9e. Il finit 12e.
Il a perdu sa 9e place, je crois, au profit du Kobayashi d'ailleurs.
Oui, exactement.
Ouais.
Alors Yannick, t'avais dit que t'avais un deuxième petit drive-through
un petit drive-through. Ça s'est pas passé pendant le Grand Prix du Brésil, ça s'est passé un peu après. Mais ça a de tels liens avec le Brésil qu'on est obligé de s'indigner. Après avoir parlé de l'efficacité d'Adolf Hitler, après avoir dit que l'affaire d'espionnage était un bien pour la Formule 1, Monsieur Bernie Ecclestone nous en a pondu une nouvelle bonne en disant que la mort d'Ayrton Senna avait été un bien pour la Formule 1. Alors, j'aurais tendance, c'est vrai que, pas à lui donner raison, mais à dire que c'est vrai que la mort d'Ayrton Senna a entre guillemets mis la F1 sous des projecteurs, c'est comme sur une autoroute, automatiquement, dès qu'il y a un accident sur une autoroute, c'est le phénomène bien connu du voyeurisme, les gens ralentissent, ils regardent l'accident, et je pense qu'effectivement, il y a eu un accroissement de l'audience sur la Formule 1 par esprit morbide. Et ce qui m'avait d'ailleurs étonné, moi, il y a quelques années, je m'étais renseigné justement sur les prénoms par année. Vous avez certains sites qui vous permettent d'avoir les statistiques des prénoms par année. Et ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est qu'Ayrton Senna, en France, il y a des petits Ayrton, il y en a une trentaine, je crois. Il y a eu plus de Ayrton, de gamins qui se sont appelés Ayrton en 94 que dans les autres années. Donc effectivement, peut-être qu'il n'a pas tort que la mort de Senna a remis un coup de projecteur sur la F1, a rajouté du drame, etc. Maintenant, au-delà même du simple propos, sortir ça au Brésil, l'année où le Brésil a failli perdre un deuxième champion.
Juste après avoir rencontré la famille Senna.
Oui, voilà. Alors qu'en plus, on a aussi Hamilton qui est allé sur la tombe de Senna. Il y avait une ambiance aussi autour de ça. C'était les 15 ans cette année de la mort de Senna. J'ai trouvé ça incroyablement déplacé. Alors, c'est plus surprenant de sa part, mais on a plus l'impression qu'ils se sont dit, voilà, on va relancer la machine à polémique, on va reparler de moi, etc. Et voilà, et je me dis que après Briatore, maintenant, il faudrait peut-être qu'on commence à se pencher sur le dossier avec le Stone. Parce que la Formule 1, on le voit avec la bouse qui arrive à Abu Dhabi, la Formule 1 ne gagne rien avec Ecclestone pour le moment et que voilà, c'est pour infliger une telle image comment dire, de stupidité, de dégradante à l'image de la F1, qui donne une très mauvaise image des fans. Et je me sens, moi en tant que fan, je me sens profondément blessé quand on a un homme qui est censé représenter la F1, qui ose dire que la mort de Senna a été un bien au Brésil. Et de me dire, voilà, c'est toujours comme ça que je réagis en fonction de notre côté fan.
Ouais.
Ces mecs-là ne pensent pas à nous. Et hors sujet, hein, mais dans le même domaine, là, on a iTélé qui a une émission là le soir de 18 à 20 heures et depuis le mois de septembre avec Audrey Pulvar. Et pour faire leur pub, ils commencent en disant la F1 ressemble de plus en plus à la série Dallas. Et ils vous parlent de l'affaire Renault.
Oui.
Et c'est ça qu'on se rend pas compte, c'est que des petites images, des petites anecdotes, etc. C'est ce qu'on parle dans les médias, c'est ce qu'on parle sur iTélé, c'est ce qu'on parle sur LCI. Dans les grands médias publics, c'est de ça qu'on parle. On parle pas de la dernière victoire du champion, on parle pas du. On a plus parlé de l'affaire Renault ou des différentes polémiques d'espionnage, etc. Des propos d'Ecclestone que du titre de Button cette année, quoi. Et c'est ça que je trouve dommage. Faut que les mecs Bernie Ecclestone, une pensée au fric, il faudrait que, déjà qu'ils commencent à se dire, si on commençait déjà un peu plus à promouvoir les bonnes images de la F1, qu'on commence à faire des clips sur les dépassements, etc. et tout, qu'on commence à vraiment mettre les bons côtés sous les projecteurs, bah peut-être qu'il y aurait un peu plus de gens qui se dirigeraient vers la F1. Et je dis ça parce que je sais par exemple qu'il y a un de nos auditeurs qui nous a envoyé un message cette semaine en disant que notre bonhomie et notre émission, par son côté très très familial, très copain-copain, bah, lui avait redonné envie de revoir la Formule 1, que jusque-là, bah, il n'avait plus vraiment envie de la regarder. Bon, je peux le citer, hein, c'est TNT, Stéphane, qu'il était juste fan de Kubica, mais que voilà, il suivait plus les séries.
Ouais, il était vraiment tombé bas, quoi.
Voilà, et que c'est parce que... Et que c'est parce que voilà, il a retrouvé entre guillemets dans notre émission une ambiance de potes et une vraie ambiance sportive, je pense. On essaye de véhiculer cette ambiance sportive qui s'est réintéressée à la Formule 1. Et je pense que si les autorités supérieures que sont Max Mosley, Bernie Ecclestone et bientôt soit Vatanen, soit Jean Todt, donnaient un peu plus cette image, véhiculaient un petit peu plus cette image et remettaient un peu plus de positif. Je pense qu'il y aurait un peu plus de fans de Formule 1.
C'est le bon côté de ce qui est en train de se passer globalement, c'est que quasiment Ecclestone est le dernier, je veux dire, puisque Max Mosley va partir, Briatore, bon, c'est fini.
Hop.
Ouais, bon, mais bon, d'accord.
Oui.
Mais bon.
Pour le moment.
Mais disons que, voilà, que le sport reprenne ses droits. C'est vrai, par exemple, cette année, alors bien sûr, il y a eu l'affaire des doubles diffuseurs, on est bien d'accord.
Ouais.
Au début de saison, mais après ça, on n'a rien eu cette saison. On a eu d'autres affaires, des affaires qui parlaient de l'an dernier, des affaires qui parlaient de séparation.
Ouais.
Mais on a, à part, comme je le dis, les doubles diffuseurs, on n'a rien eu. Je veux dire, ça s'est vraiment passé sur la piste.
Enfin, je dirais les doubles diffuseurs, au-delà, c'est pas une polémique, quoi, c'est juste un débat sur la Formule 1 qui est sain. Je dirais que avant le crashgate le plus infamant pour la Formule 1, c'était le mensonge de Lewis Hamilton, puis encore, c'était pas très infamant, puis c'était surtout les propos de Bernie Ecclestone.
Oui.
Et à ça aussi se rajoute, enfin, on n'a pas beaucoup parlé, ça n'a pas fait beaucoup de polémique dans les médias, mais à ça se rajoute notamment la citation qui t'avait choqué, toi je sais Shinji, la citation de Max Mosley qui, parlant de Vatanen, avait dit qu'il avait invité un jour Vatanen chez lui parce que Vatanen voulait avoir son soutien pour la campagne à la FIA et qui lui avait dit, de toute façon, toi-même, t'es un pilote de rallye. Toi-même, tu n'as jamais rien gagné parce que de toute façon, t'as besoin d'un coéquipier. T'es même pas capable de piloter ta voiture.
C'est quand même une insulte un à Vatanen dont on connaît le palmarès et deux à tous les pilotes de rallye quoi.
Voilà, tous les pilotes de rallye. Puis le président de la FIA est quand même responsable des rallyes. Donc voilà, c'est toute cette direction qui est pas du tout saine et qui est, bon, moi ça me désole. Et je pense sans Briatore, on n'aurait déjà pas eu le crashgate, qui aurait été une bonne chose. Et je pense que sans les autres, bah, la seule affaire qu'on aurait eu, ça aurait été l'affaire Hamilton et les doubles diffuseurs. Et puis on aurait eu une saison quasiment irréprochable.
Mais déjà là, voilà, ça s'est joué sur le terrain. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. On va passer à notre cher concours. Ouais. Hein, Enzo.
Le concours, ta proposition.
Pas top
ou top pas. Alors moi, je sais qu'historiquement, c'est top pas position.
Oui.
Et que à cause de, je sais plus, c'est Iceman Air ou TNT, enfin je sais plus, qui a dit pas top proposition et que j'ai osé le dire pendant l'émission, ça y est, Enzo maintenant il dit pas top proposition.
Tout ça parce que c'est plus simple à dire.
Non, c'est pas top pop. Et c'est pas top proposition, hein, c'est pas top position.
Mais ouais, mais je préfère le top proposition. Parce que c'est un top qui est pas la position du pilote.
Oui, mais
ouais.
Pas top, c'est pas top position parce que c'est nul.
Non, c'est pas nul.
Non, mais c'est pas top.
C'est des questions qui sont nulles, mais le concours il est bien.
Il est bien.
Ah, je crois que c'était des... Lélo qui était nul.
Un bon concours.
D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai respecté ma parole et j'ai envoyé tous les magnets.
Waouh.
Ah, j'ai pensé le mien.
Donc, Yannick,
no comment.
Yannick, veux-tu répondre à la question de la semaine dernière?
Oh, mais oui, avec plaisir.
Toi qui n'as jamais l'occasion de répondre à la question de la semaine dernière.
Alors, la question de la dernière émission consacrée au concours pas top position du Grand Prix du Japon était la suivante. À quelle jambe a été blessé Timo Glock lors de ce Grand Prix? Nous avions mis un indice qui était, c'est celle qui a le gros orteil à droite, à moins que ce soit l'autre.
Oui. Vous aviez une chance sur deux.
Vous aviez une chance sur deux. Et après vérification vidéo, il s'avère que la bonne réponse, c'était la jambe gauche.
Alors Yannick, c'est toi qui as récupéré les réponses.
Est-ce qu'il y en a qui sont plantés déjà?
Alors on a eu quelque chose d'historique.
Quelqu'un n'a répondu ni la jambe gauche ni la jambe droite.
On a eu quelqu'un qui s'est trompé.
Non, ah bah on lui donne le lot.
On ne dira pas son nom.
Si, alors, si. D'accord. Alors, bon, non, on dira pas son nom. Hein, bah, il va se reconnaître tout seul, n'est-ce pas, Oscar? Non, mais effectivement, c'est une question. Bah, faut dire que même Enzo n'avait pas la réponse.
Mais si.
Non, t'avais pas la réponse.
J'ai vu une photo après.
Oui, voilà, t'as vu photo après. Il fallait trouver la photo ou la vidéo. Effectivement, c'est la jambe gauche et pas la jambe droite. Donc, nous avons une bonne réponse de Maël. Nous avons une bonne réponse de TNT. Une bonne réponse de Globen. Et une bonne réponse d'un petit nouveau qui s'appelle Darth Ice. Je pense que ça va être un fan de Darth Vaderis et de Kimi Raikkonen.
Darth Ice.
Ouais.
Très bien. Alors Enzo.
Oui.
Cette semaine.
Oui.
Donc Enzo, cette semaine, tu as le choix entre Pi, entre Omega, entre Delta et Alpha.
Eh ben Omega parce que c'est une marque de monde dont qui sponsorisait Xiaomi.
Ah, ah.
Et c'est?
Eh bien, Globen.
C'est pas vrai.
Il a plus de frigo, le pauvre.
Globen, j'espère que tu as un grand frigo.
Frigo américain.
Le magnifique magnète du Grand Prix du Japon, qui représente quoi?
C'est une porte, attends, que je vous dise pas de bêtises.
Un tori?
C'est une porte traditionnelle japonaise, un tori, ouais.
Tori, d'accord. C'est une porte qui représente
l'empire. Non, même pas.
Ah non?
Non, c'est un temple. C'est le. Ah ben, même pas, je crois que c'est le palais impérial. Non, c'est le palais impérial. Donc, félicitations, Ben.
Félicitations.
Félicitations.
Tu as un grand frigo, j'espère.
Ça va. J'ai pas encore fait gagner TNT.
Non.
Attends, il a déjà eu 8 points de Kubica, ça suffit. C'est pas tous les jours Noël. Hein.
Donc, Enzo, maintenant.
Service après-vente. De la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours top position présenté par Enzo. Heureusement qu'on coupe au montage, sinon ça serait aussi long qu'un tour de Lucas Badoer.
Bonjour à tous et bienvenue au concours pas top position. Vous venez d'écouter le SAV de la F1 spécial Grand Prix du Brésil. Répondez maintenant à la question qui vous est posée afin de gagner un magnifique magnète. Quel pilote a été la victime involontaire de l'accrochage entre Trulli et Sutil? Et à l'occasion de la fin de saison, répondez à la question subsidiaire afin de gagner un séjour tout frais payé pour le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Au millilitre près, quelle quantité d'essence est répandue sur la voiture de Kimi lors du ravitaillement de Kovalainen? Répondez à ces questions en utilisant le formulaire contact du site du SAV www.savf1.fr.nf. À bientôt pour le prochain concours pas top position.
Alors attention, parce que c'est son initiative. Hein. Donc si vous trouvez, c'est lui qui paye. Hein.
que Nelly, c'est pas correct.
Non, mais je pense qu'il s'est fait refourguer par un de ses potes un billet, un séjour pour aller à Abu Dhabi. Et quand il a vu le circuit sur le site, il s'est dit, oh non, mon dieu, non, faut que je trouve un moyen de me débarrasser de ce billet.
C'est exactement ça. Je peux pas y aller, j'ai une compète de golf.
Il y aura un cadeau.
Il y a pas un golf à Abu Dhabi?
Si, mais bon, je peux pas emmener toute mon équipe.
Donc, on va terminer cette émission. Ah, non, c'est... Pourquoi ça arrive toujours à moi? Pourquoi c'est toujours quand moi je parle que je dis vos trucs à la
con? Parce que tu parles trop.
Donc, le Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc, vous pouvez voir les premières images sur le SAV de la F1, sur le blog, un tour avec des tours faits par Bruno Senna.
Oui, alors, il va pas bien vite. Hein.
Ah, oui, il va pas c'est... bien vite. Et un Grand Prix qui s'annonce déjà, j'ai envie de dire, fantastique.
Ah oui, mon chiant. Fantastique, mon chiant. Chiant.
Non, mais justement, le truc, c'est je pense que là, vu que vous êtes, pendant toute la saison, vous avez eu le stress de vous dire, faut que je me réveille vite à l'heure là, pour pouvoir voir le Grand Prix du Japon et tout. Voilà. Vous avez résisté jusque-là. Là, vous avez le droit de faire la grasse matinée. Même le grasse après-midi.
C'est à quelle heure?
Oui, c'est à quelle heure?
C'est à 14h.
Ah ouais?
Ouais, c'est à 14h. Il n'y a que 3 heures de décalage.
C'est un dimanche?
Oui.
Attends, donc ça veut dire que ça sera 17h là-bas?
Ouais.
Et non, la nuit tombe tôt?
Ah bah oui, forcément.
Elle tombe tôt, elle tombe vite. Il paraît qu'en 10 minutes, elle est tombée.
Tu te rapproches de l'équateur. Hein.
Donc, on espère déjà qu'il y aura plein d'actu. Hein, parce que bon, honnêtement, le Grand Prix, c'est mal barré.
C'est pas faux.
Donc, malgré que ça soit mal barré, malgré que ça va être un Grand Prix de gala, faut bien le dire.
Et c'est justement ce qui peut le rendre intéressant.
C'est vrai. Alors, qui pour gagner, pour inscrire pour la première fois son nom au Grand Prix d'Abu Dhabi? Alors,
tu veux nos pronostics, c'est ça?
Bah oui.
Allez, Button. Au panache.
Au panache.
Ouais.
Enzo.
Il n'a plus rien à perdre.
Kobayashi. Eh bien, pourquoi pas?
Eh bien, écoutez, moi...
Première victoire de Toyota.
Ah ouais?
Si c'était...
Eh bien, moi...
Toi, tu veux dire Raikkonen.
Oui, c'est ce que je me dis. Pendant toute la saison, à chaque fois qu'on m'a demandé qui allait gagner, je me suis dit, non, je vais pas faire mon fan. Je vais pas faire mon fan. Je vais essayer d'être réaliste. Mais bon, c'est la dernière course, on s'en fout. Donc, je dis Raikkonen.
Mais Kimi fait partie des favoris, hein.
Bah ouais, puis... Ils sont
avec Lewis Hamilton pour la bataille McLaren et pour la bataille de la quatrième place, la cinquième place, ils font partie tous les deux des favoris pour la victoire.
Et puis ils sont un peu chez eux, Ferrari.
Bah oui, tout comme McLaren d'ailleurs.
Mmh. Aussi.
Et bah, il va y avoir un parc d'attractions Ferrari. Près
oui, c'est vrai.
Donc c'était l'émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix du Brésil.
Brésil.
Et ça a été une très bonne expérience pour moi. Mais je ne suis pas mécontent que Yannick reprenne la présentation de l'émission dans 2 semaines.
Oh non!
Eh oui, tes vacances sont terminées.
Et les nôtres commencent.
Ouais. Donc, bah, merci Yannick, merci Enzo. Merci aux auditeurs.
Et on t'en prie.
Et bah, au prochain Grand Prix. Et bon Grand Prix.
Non, on peut pas dire que c'est un Grand Prix. Le prochain truc là,
au prochain défilé de voitures, voilà.
Au prochain centre commercial.
Allez, bonne soirée à tous.
Bonne soirée, ça se trouve c'est pas la soirée.
Attends,
ça fait plus... le matin, ils sont en train d'écouter le
matin.
Attends,
ça fait plusieurs émissions que tu nous sors des bonsoirs et tout. Hein. Alors qu'on sait pertinemment que les gens qui nous écoutent, c'est pas forcément le soir.
Bon, d'accord.
Faut être logique. Je sais, cette émission a beaucoup de logique. Mais parfois, faut être logique.
Allez, salut.
Salut à tous.
Salut à tous.
Service après-vente de la F1.
Só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba. Vai.